Lettre 2650, suite table des matières. Cliquez sur le numéro de la lettre pour y accéder directement. XXV, craignez Dieu, rendez-lui gloire, adorez-le en esprit et en vérité, supportez le jugement de Dieu dans votre cœur. Vie conseil et sympathie à quelqu'un éprouvé XXV, confessez votre espérance en Christ et comprendre la lumière XX, les nécessités de la marche, les écritures, l'église, la tribulation XXX, la vérité dans les parties intérieures XXX, délivrant des ennemis spirituels par Christ, entre l'extérieur et l'intérieur XXX, encouragement à la fidélité sous l'appréhension de souffrir XXX, exhortation à mourir, attendre, sentir la semence XXX sur le déclin. Vers les lettres 1-25, vers les lettres 51-75, vers les lettres 76-104, lettres XXV, craignez Dieu, rendez-lui gloire, adorez-le en esprit et en vérité, supportez le jugement de Dieu dans votre cœur à la veuve Heming, cher ami, depuis la dernière fois que je vous ai vu, j'ai eu dans mon cœur beaucoup de pensées profondes et graves vous concernant, et le sentiment de votre état devant le Seigneur, et des soupirs du cœur pour vous. Je sens que l'Esprit du Seigneur lutte avec vous et, dans une certaine mesure, ouvre votre cœur vers lui et vers sa vérité, et je sens en même temps qu'il y a beaucoup de luttes contre lui, et bien des forteresses de sagesse et de raisonnement en vous, qui doivent être renversées avant que la vérité puisse jaillir dans votre cœur, y exercer sa puissance et y avoir pleine autorité. Or, ce matin, à mon réveil, trois choses ont surgi en moi, que mon cœur a à part et avec ardeur désiré pour vous. La première était que vous soyez conduite par le Saint-Esprit de Dieu dans l'Alliance nouvelle et vivante, où Christ est révélé et où l'âme est unie à lui comme Seigneur et Roi, dans un lien d'union indissoluble. La seconde était que vous soyez chaque jour enseigné de Dieu et que vous appreniez de lui dans cette alliance sainte, nouvelle, pure et éternelle. La troisième était que vous soyez vrai et fidèle à Dieu afin de lui obéir et de le suivre en tout ce qu'il vous enseigne et vous demande. Si vous étiez seulement dans cet état, vous trouveriez douceur et repos, paix et puissance, la justice de notre Seigneur Jésus-Christ et la vie éternelle révélée dans votre propre cœur et avec joie, vous puiseriez de l'eau aux sources du salut. Or, si vous venez à rendre témoignage à l'apparition de Christ en esprit, et si vous devenez son disciple, il y a trois choses auxquelles vous devez appliquer votre cœur pour apprendre de lui, et celles-ci sont en effet le résumé de l'Évangile, ou de ce qui est enseigné dans et par l'Évangile. La première est de craindre Dieu. C'est le commencement de la vraie sagesse céleste, et c'en est aussi la perfection et la fin, car la vraie sagesse ne conduit pas seulement à la crainte, mais elle édifie dans la crainte, oui, et elle perfectionne aussi dans la crainte, selon ce que l'apôtre a dit, achevant la sainteté dans la crainte du Seigneur. Or, ce n'est pas une crainte que l'homme puisse atteindre par quoi que ce soit qu'il puisse faire, mais c'est la crainte de la nouvelle alliance que Dieu met dans le cœur de ses enfants, lorsqu'il les vivifie et les fait grandir dans la nouvelle alliance. C'est une crainte telle que ceux en qui elle est placée ne peuvent s'éloigner du Seigneur, et qu'en y demeurant ils ne peuvent s'égarer du chemin de la vie et de la sainteté, car tout péché et toute transgression, toute rébellion contre le Seigneur, et le fait d'attrister et d'éteindre son esprit, est hors de cette crainte. George Fox a dit dans ses livres doctrinaux, « Craindre Dieu, ce n'est pas l'attrister ni l'offenser, mais lui être soumis et le révérer. Oh, puissiez-vous recevoir cette crainte du Seigneur et y croître chaque jour en lui. » La seconde, qui dépend de la première et en découle, est de rendre gloire à Dieu, en discernant sa vie et sa puissance, et la vertu de son esprit et de sa grâce, opérant tout en vous, et ainsi, attribuant toujours à lui la gloire de tout ce que vous êtes, faites ou pouvez faire. Car au jour de l'Évangile, aucune chair ne peut se glorifier en la présence de notre Dieu, mais le Seigneur seul est exalté dans l'esprit de ses enfants en ce jour-là. Et en effet, à mesure que chacun entre dans la crainte de la nouvelle alliance, la présence du Seigneur y est habitant au milieu du cœur, et on le trouve y opérant tout, y faisant germer la semence de vie, et y abattant le péché, la mort et la corruption. Et ceux qui sont là sentent leur propre pauvreté et leur néant, en eux-mêmes, et que leur voie pour devenir fort en Christ est d'abord de devenir faible en eux-mêmes. Ainsi, lorsqu'ils sont forts en lui, celui qui est leur force est glorifié et admiré, et le moi n'a plus aucune considération ni valeur à jamais, car on s'attache à ce qui a abaissé le moi, et cette puissance et cet esprit auquel on s'attache le maintiennent encore abaissé. La troisième est que vous appreniez à adorer Dieu en esprit et en vérité. Oh, ce culte est vraiment précieux, et c'est le seul genre de culte auquel Dieu prête attention et qu'il considère, parmi les nombreux et divers genres d'adorateurs qui paraissent en ce temps. Ce culte a été déclaré par Christ et enseigné à ses disciples, mais on s'en est largement écarté, et bien que beaucoup l'aient recherché, nul ne l'a jamais trouvé sinon en apprenant du Père à retourner à l'onction, et ainsi à être rassemblé dans son esprit où le nom de Christ est connu, et où ceux qui se réunissent adorent en son nom, et en vérité nul ne connaît ni ne peut adorer au nom de Christ si ce n'est cela. Il y a eu de grandes erreurs au sujet du culte et des assemblées, celle-ci n'ayant pas été dans le nom et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais seulement dans une profession de ce nom et une imitation de choses, sans la vraie vie et la vraie puissance, et que vaut ce culte et cette religion aux yeux du Seigneur. Or, afin que vous puissiez entrer dans cet état et apprendre toutes ces leçons du Seigneur dans la nouvelle alliance, une chose vous est indispensablement nécessaire, c'est de connaître l'heure du jugement de Dieu dans votre propre cœur et de demeurer sous le jugement du Seigneur, le portant jusqu'à ce qu'il l'achève et le fasse aboutir à la victoire. Car c'est ainsi qu'il purifie et rachète l'âme, à savoir par l'esprit de jugement et de feu. Vous devez donc attendre et venir à sentir l'esprit du Seigneur près de vous, vous découvrant le péché, révélant le jugement contre lui et exécutant son juste jugement sur la nature mauvaise en vous, afin qu'il fasse lever cette bonne et tendre plante de justice hors du sol sec et stérile, auquel va sa miséricorde. Venez à connaître l'Esprit de Dieu, à le recevoir, à le sentir agir en vous, et à voir sa pure lumière briller depuis la source et la fontaine de vie, vous aurez par lui un sens et un discernement plus prompt que ne peuvent naître soit de mots écrits, soit de la pensée, c'est-à-dire que le Seigneur vous montrera la voie sur laquelle vous doutez, plus vite qu'une pensée ne peut surgir en vous, et le Seigneur vous montrera le mal, dans un sens pur de la nouvelle nature, plus vite que vous ne pouvez penser ou considérer quoi que ce. Et en vérité cela est nécessaire, car le péché loge intérieurement dans la nature mauvaise, et agit non tant par une loi connue établie dans l'esprit, que par une nature secrète, et s'il n'est pas résisté et combattu par une autre nature, il ne peut jamais être vaincu. Or c'est par ce jugement établi dans le cœur que Dieu vainc et tient le péché abaissé pour toujours, car le jugement de Dieu est plus fort que le péché et le fera tomber, là où son jugement est reçu et où l'on y demeure. Et ce qu'il a abattu si l'on s'y tient, le tiendra abaissé, et étant tenu abaissé la vie et la justice, la vie juste, l'Esprit et la puissance du Seigneur Jésus intérieurement révélés seront au-dessus et régneront sur lui. Peut-être ces paroles vous seront-elles dures pour l'instant, mais si vous en venez à attendre le Saint-Esprit de Dieu, à ressentir son apparition dans votre cœur, et à apprendre de lui à connaître ce qui est bien et ce qui est mal dans vos paroles, vos voix, votre culte, oui, et dans votre propre cœur et vos pensées, et aussi à choisir le bien et à refuser le mal, elles deviendront de jour en jour plus faciles et plus claires, à mesure que vous entrerez dans le sens et l'expérience des choses qu'elle mentionne. Vous trouverez que Christ, intérieurement révélé en esprit, peut très justement être appelé la parole de Dieu, la parole implantée qui peut sauver l'âme, car elle est vivante et puissante, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, capable d'abattre tout ce qui apparaîtra ou se lèvera dans le cœur pour résister ou s'opposer à son œuvre. Que le Seigneur vous guide ainsi, se manifeste à vous, vous aide et vous conduise par son Saint-Esprit et sa puissance, afin que vous veniez indubitablement à en faire l'expérience et à en être satisfaite par lui. Et ne cherchez pas tant à savoir qu'à obéir et à être soumis au Seigneur, tant dans votre cœur que dans votre conduite aussi, dans la moindre chose qu'il rend manifeste. Que le Seigneur vous conduise comme il le juge bon, et vous donne de le suivre fidèlement, car sinon, si le Seigneur devait conduire en quelque chose, et que vous ne le suiviez pas dans cette chose, son esprit en serait attristé et affligé, et votre cœur serait en danger de s'endurcir par la tromperie du péché. Que le Seigneur vous donne le sens et la saveur de ces choses, afin que par là, vous soyez embrasés à attendre le Seigneur, à être conduite dans la lumière des vivants, pour que vous viviez et marchiez avec lui en elle, lui qui est, qui demeure, et qui marche avec les siens dans la lumière, ô maison de Jacob. Venez, marchons dans la lumière du Seigneur, et montons à Sion, la sainte montagne de Dieu, et à la Jérusalem de l'Évangile, afin que là il nous enseigne ses voies, et que là nous apprenions de lui à marcher dans ses sentiers, car là est le lieu de la sagesse et de la vraie intelligence, que nul ne connaît sinon ceux qui sont enseignés de Dieu. C'est en véritable amitié et tendre amour pour votre âme, de la part de son ami en vérité et en sincérité. I.P. 26 jour du 8e mois, 1670 lettre XXV conseil et sympathie dans l'épreuve. À Elizabeth Walmsley, ma très chère amie, nombreuses sont les épreuves, les afflictions et les tentations par lesquelles le Seigneur juge bon de nous exercer, pour nous purifier et nous blanchir, afin qu'il honore son nom en nous et par nous. Mais cette promesse demeure sûre dans la semence, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Et si notre Dieu est avec nous et pour nous, que peut prévaloir contre l'œuvre et le dessein de son amour et de sa puissance envers nous? Je suis profondément sensible à votre condition, la ressentant, jusque dans l'amour tendre et attendri de mon cœur envers vous, et cette parole a surgi en moi pour vous. Ne regardez pas au dehors, mais ayez confiance dans le Seigneur, qui peut rendre les choses plus faciles qu'elles ne semblent devoir l'être, et qui certainement fera passer tous à travers les choses les plus dures qu'il leur permet de rencontrer. Oh, que le Seigneur garde tous dans sa pure innocence, hors de la sagesse terrestre, faite de calcul, qui dit « Sauve-toi, évite ce terrible choc, ce coup de la croix, à laquelle il est aisé de prêter l'oreille, si l'esprit n'est pas gardé vers cet œil et cette sagesse qui démasque le tentateur et enseigne à l'oiseau à échapper à son piège. » mon cher amour est pour vous et pour tous les amis fidèles. Que le Seigneur vous garde d'écouter l'ennemi et vous rende fidèles à lui, dans la pure innocence et la sagesse céleste qui vient de lui. Car la vérité triomphe de la tromperie, et la vie de l'agneau sur la croix règne et triomphe de la mort. Gloire à celui qui a vaincu en sa personne, et qui nous enseigne à vaincre par la foi en sa puissance, et par les débordements de la vie victorieuse dans nos cœurs, qui d'abord abat ce qui est contraire à la vérité, puis règne dans la vérité. Votre ami dans l'amour qui ne meurt jamais, et dans la vérité qui ne change pas. IP, 4 Crove, 14 jours du 10e mois, 1670. Lettre XXV, confessez votre espérance en Christ, et aussi, la lumière de Christ n'est pas les Écritures à Elizabeth Stonard, cher ami. Je sens que le Seigneur vous a visité par sa puissance, atteignant votre cœur dans la démonstration de son propre esprit, et que votre cœur a répondu, et a dit au plus intime de votre âme, « C'est vraiment la vérité de Dieu ». Or, dans la mesure où Dieu vous a atteinte, dans cette mesure il vous incombe de le confesser, lui, sa vérité et son peuple devant les hommes, et de vous abandonner à l'obéissance et à la soumission d'esprit envers le Seigneur. Et si vous dites, dans la simplicité de votre cœur, à quiconque a quelque douceur, « Voilà ce qu'il en est pour moi, je crois de tout mon cœur que ceci ou cela est de Dieu », que dois-je faire? Dois-je me soumettre à cela dans l'obéissance, ou désobéir au Seigneur, attrister son esprit et blesser ma propre âme? Cela atteindra ce qui est de Dieu en quiconque, et cela blessera et troublera ce qui n'est pas de Dieu. Que le Seigneur vous guide, vous prenne en pitié et vous aide dans vos embarras, vos doutes, vos craintes et vos troubles, tant en ce qui vous concerne que votre mère. Dieu m'est témoin, lui que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, que je ne me suis pas cherché moi-même, mais votre bien, et cela, non de moi-même non plus, mais selon les directions et les attirances de son Saint-Esprit. Et j'ai donné à votre mari un avertissement, dans un amour vrai et tendre, bien que je sache assez combien il serait dur à son esprit dans son état présent, et quel ennemi aimé il pourrait devenir pour moi, parce que je lui disais la vérité. Je ne l'ai pas faite à la légère, mais dans le poids de mon esprit devant le Seigneur, et je souhaite de tout cœur qu'il ne soit pas trompé dans son cœur au sujet de son propre état, mais qu'il le connaisse vraiment tel qu'il est, l'ami vrai de votre âme, au cœur sincère, IP. Post-scriptum, il y a une lumière qui éclaire l'âme, autrement elle demeure dans les ténèbres. Vous étiez ténèbres, disait l'apôtre, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Or, nul homme ne peut devenir lumière dans le Seigneur, à moins que sa nature et son esprit ne soient renouvelés et changés, passant des ténèbres à la lumière. La question est donc, qu'est cette lumière, et où la rencontrer? Les Écritures sont-elles donc cette lumière, ou bien rendent-elles témoignage de cette lumière? Si elles rendent témoignage de cette lumière, alors il faut venir à la lumière, et que l'âme soit éclairée par elle. Et celui qui vient à cette lumière, qui en est éclairé et qui marche dans ses purs rayonnements devient enfant de lumière, mais celui qui n'en est pas éclairé ni changé est encore enfant des ténèbres, nonobstant tout ce qu'il apprend, professe ou pratique, par imitation à partir des Écritures. C'est une affaire de poids, on venait. Ne soyez pas attachés à vos propres voies, ni prévenus contre ce que Dieu a enseigné à d'autres, mais que les choses soient examinées équitablement, afin que tout soit éprouvé et que ce qui est bon soit retenu, car la vérité ne perdra pas de terrain à être mise à l'épreuve, mais les ténèbres craignent la lumière, parce qu'elles ont un sentiment secret qu'elles ne peuvent subsister devant elles. IP 16 jours du 12e mois, 1660 lettres XXX les nécessités de la marche, les Écritures, l'Église, la tribulation. Nathaniel Stonard, cher ami, il y a quelque chose sur mon cœur à vous exprimer dans l'amour et une grande bienveillance qui est ceci. Ne serait-ce pas triste si vous deviez périr loin du Seigneur pour toujours? Si vous vous égarez en votre cœur hors de la voie vivante, cela peut arriver. En effet, si votre esprit n'est pas tourné des ténèbres intérieures, vers la lumière intérieure de l'Esprit de Dieu, il ne peut en être autrement. Or, si vous sentez la lumière intérieure, la puissance de la pure lumière, et que vous en êtes changé, vous ne pouvez parler contre cette lumière. Il n'y avait pas de vraie religion au jour des apôtres sans se tourner vers la lumière intérieure, et c'est vers elle que le vrai ministère était envoyé pour tourner les hommes, et il n'y a pas davantage de vraie religion aujourd'hui sans être tourné intérieurement vers cette même lumière et sans y marcher. Et vous ne pouvez éprouver aucune vérité, ni comprendre correctement aucune écriture, sinon dans la lumière de l'Esprit de Dieu. Nul homme ne peut comprendre les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Les Écritures sont des paroles saintes, et traitent des choses de Dieu, que nul homme ne peut comprendre autrement que dans une lumière de même nature que celle dont elles sont issues. Et lorsqu'un homme parvient une fois à la vraie intelligence, il découvre bientôt que l'intelligence qu'il en avait auparavant n'était que selon la chair, et donc au-dessous de la nature de la vraie intelligence. Et amis, considérez, Votre connaissance que vous avez eue auparavant a-t-elle changé ou change-t-elle la nature de votre intelligence et de votre volonté? Ou bien votre ancienne intelligence et votre volonté demeurent-elles encore, malgré toute votre connaissance et vos pratiques religieuses? Oh, ne badinez pas avec des choses d'une si grande importance, de peur de vous repentir trop tard. Car je ne vous dis pas ce que je vois vous concernant, dans la lumière de l'Esprit éternel de Dieu, mais je voudrais volontiers que votre propre œil, ou plutôt l'œil droit en vous, soit ouvert et amené à voir. Et considérez sérieusement une écriture concernant l'Église de Laodicée, n'avait-elle pas la vraie connaissance extérieurement, et un véritable état d'Église, et des ordonnances justes, ne croyait-elle pas en Christ, et ne levait-elle pas les yeux vers lui pour la justification, etc. Non, de quoi manquait-elle quant à l'extérieur de son état? Mais il lui manquait le sentiment, la vie, la chaleur intérieurement. Ainsi, quand bien même vous auriez extérieurement toutes les ordonnances et toutes les vérités de la lumière de l'Évangile, pourtant, si vous manquiez de la puissance intérieure, vous ne pourriez que manquer de l'or éprouvé, du vêtement blanc et du collier, et ainsi, bien que vous puissiez vous croire riche, la honte de votre nudité apparaîtrait. Oui, en effet, la nudité de ceux qui ne sont pas revêtus de l'Esprit de Dieu apparaît au Seigneur, et aux yeux et aux esprits de ses enfants, qu'il ouvre dans sa propre lumière, et qui voit avec cet œil, je dis que la honte de leur nudité apparaît, malgré tous les voiles religieux dont ils peuvent se couvrir. Oh, que vous ayez des désirs vivants, selon la nature de la vérité. Et que vous connaissiez la nouvelle nature, qui ne peut être satisfaite par rien d'autre que la vertu, la vie et la puissance de la vérité. Venez, amis, attendez le Seigneur, afin que l'ancienne nature, l'ancien esprit, l'esprit, la sagesse, l'intelligence et la volonté soient brisés, le vieux vêtement déchiré en pièces, pour que vous en veniez à expérimenter ce qui est nouveau, pur et vivant, et à trouver le vase nouveau rempli de ce qui est nouveau, et à connaître l'état virginal d'esprit, et la saveur du véritable ongue. Car la vie est le parfum de la vie, et la mort est le parfum de la mort, et les paroles vivantes ne sont que le parfum de la mort pour ceux qui sont hors de la vie, et la pierre vivante, qui est pour nous le fondement de la vie, est très précieuse, n'est qu'une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour ceux qui sont hors de la vie, et qui jugent des choses d'après leur conception de la lettre, sans l'esprit de vie et de puissance. C'est ainsi que faisaient jadis les scribes et les pharisiens, et ils ont condamné Christ dans son apparition en chair. Ceux qui jugent de la même manière maintenant ne peuvent que condamner son apparition spirituelle dans le cœur de ses enfants. La lettre tue, l'esprit vivifie. Si vous voulez la vie, vous devez venir à ce qui donne la vie. Si vous voulez entrer dans le ministère du Nouveau Testament, vous devez venir dans l'esprit et la puissance, et connaître la lettre des Écritures, dans l'esprit et la puissance qui les ont écrites, si jamais vous les connaissez correctement. Oui, si vous voulez devenir un fils de Dieu, vous devez recevoir de Christ la puissance de le devenir. Et si vous voulez croire correctement, vous devez sentir la foi opérée dans votre cœur par cette même puissance qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Toute autre foi reste au-dessous de la nature de la vraie foi. Si vous recevez du Seigneur le vrai sens de ces choses, vous bénirez son nom d'avoir engagé mon cœur à vous les écrire. Mais si vous les lisez hors de ce qui donne la vraie intelligence, elles ne pourront vous être d'aucun avantage. Mais quel que soit l'accueil que vous leur fassiez, mon jugement est avec le Seigneur, et mon œuvre et mon labeur d'amour avec mon Dieu, qui est ma force et ma joie, en qui mon âme repose en paix dans le sein de mon bien-aimé. Et, oh, puissiez-vous aussi sentir des vivifications de vie et de vraie direction, et ainsi être familier de ce fidèle travail qui y conduit. Votre ami, dans la cordialité du véritable amour, autant que le Seigneur lui plaît de se servir de moi envers vous. IP 7 jours du 4e mois, 1671. Postscriptum. L'apôtre parle de l'état des païens, avant qu'ils ne fussent tournés des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, disant que leur intelligence est obscurcie, qu'ils étaient étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui était en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Non pas que ce qui peut être connu de Dieu ne fût pas manifeste en eux, mais leur ignorance venait de leur dureté, en ce qu'ils n'y prenaient pas garde, ne s'y tournaient pas, et ainsi ils devinrent étrangers à la vie, et leur intelligence. Or, dans cet état, les hommes sont sans Dieu, sans Christ, étrangers à l'alliance de la promesse, et sans aucune véritable espérance de salut. Et cet état est aussi véritablement celui de ceux qui obtiennent une forme de piété sans la puissance, que celui des païens purement naturels. Car rien ne fait un vrai chrétien, sinon la vie et la puissance, et celui qui n'entend pas la voix de l'Esprit de Christ dans son cœur n'est pas meilleur qu'un païen et un publicain. Oui, toute église édifiée hors de la vie et de la puissance, non, une église même édifiée par la puissance, si elle n'est pas conservée dans cette même puissance, n'est pas meilleure qu'une synagogue de Satan. Ceux qui disent qu'ils sont juifs, et ne le sont pas, ministres de Christ, et ne le sont pas, aimant et hélas, que sont-ils? Oh, que la vie est précieuse! Oh, que la puissance de Dieu est précieuse, celle en laquelle les églises d'autrefois se tenaient, et en laquelle les vraies églises d'Ojodyoi se tiennent. Il est précieux de connaître l'esprit du Dieu vivant, d'être engendré par lui dans la vie, qui est vraie et pure, d'être séparé de la mort et de sa puissance, et d'être uni à la vie et à sa puissance, d'être uni à l'agneau vainqueur, qui a triomphé du péché et de la mort dans son corps de chair, et qui, par son esprit et sa puissance, délivre son épouse de leur force et de leur domination. Et il est précieux de marcher avec l'agneau, et de suivre l'agneau partout où il va, lui qui conduit toujours hors du péché et de l'injustice dans des voies de pureté et de justice, dans le chemin préparé pour les rachetés, où il n'y a aucun danger de s'égarer, non pas même pour les voyageurs, fussent-ils insensés, Ésaïe 35:8. Oh, n'est-il pas précieux de lire expérimentalement cette écriture, et de pouvoir dire en vraie intelligence « la voie de la vie est facile, le joug est facile, le fardeau est facile, le commandement n'est pas pénible, cela parce qu'a été abaissé et soumis en moi, oui, ôté et rejeté, ce pourquoi c'était dur, hélas ». Les hommes bâtissant dans la chair, et selon leur conception charnelle des choses, comme c'est répugnant, mais l'édifice de Dieu élevé dans la lumière et la vie de son pur esprit, comme il est glorieux, comme il est beau, comme il est aimable, même aux yeux de Dieu lui-même, tu es toute belle, mon amour, il n'y a point de tache en toi. Cantique 4:7. Dans ton saint édifice, ô Dieu. Dans ton édifice céleste, dans la Jérusalem spirituelle que tu élèves et construis dans l'esprit, rien d'impur ni de souillé ne peut entrer, et il n'y a pas non plus de place pour ceux qui aiment et font le mensonge. Dehors, en effet, sont les porcs et les chiens, les yeux de vautours et les serpents tortueux, qui font étalage de ce qu'ils ne sont pas, et revendiquent ce qui ne leur appartient pas. Mais dedans sont les enfants, dedans est la naissance céleste, la nouvelle création de Dieu en Jésus-Christ. Car Dieu ne dépouille pas son peuple et ne le rassemble pas hors de l'esprit de ce monde pour qu'il reste vide et désolé à jamais, mais il le rassemble en lui, et le remplit de son propre esprit, le remplit de lumière, le remplit de vie, le remplit de sainteté, le remplit de justice, le remplit de paix et de joie, dans la foi et l'obéissance à l'Évangile. Et dans cet esprit, le royaume est connu, qui n'est pas de ce monde, le royaume intérieur, le royaume spirituel, le royaume éternel, où le trône éternel est proche, et la puissance éternelle révélée. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne dans le cœur des siens. Et d'autres seigneurs ne règnent pas, mais leurs cornes sont brisées, et la corne de loin de Dieu est exaltée, lui qui siège en régnant comme roi sur sa sainte montagne de Sion, ceux qui ont souffert avec lui et qui ont traversé une grande tribulation règnent avec lui, béni soit son nom à jamais, I.P. 10 jour du quatrième mois. Lettre XXX La vérité dans les parties intérieures. À la veuve Hemmings, chère amie, je crois que cela fait quelque temps que je n'ai pas eu de vos nouvelles. Je me souviens de la douce et précieuse saveur qui reposait sur votre esprit la dernière fois que j'étais avec vous, avec mon cher ami J. C'est, mon espérance et mon désir ont été que le Seigneur vous y conserve. La vérité dans les parties intérieures est de Dieu, c'est ce à quoi tous doivent prendre garde, et c'est en elle que l'acceptation auprès de Dieu est attestée. Hors de la vérité dans les parties intérieures, il n'y a pas d'acceptation auprès de Dieu, quoi que les hommes professent, veulent ou puissent. Dans la vérité, il y a toujours acceptation, car Dieu ne l'a jamais désavoué, ni aucun de ceux qui y sont. C'est là que l'on se nourrit de la chair et du sang qui donne la vie, c'est là que l'on connaît le pain qui descend du ciel et l'eau de la vie, mais hors de cela, ils ne sont pas, ni ne peuvent être connus. Ô mon ami! Puissiez-vous sentir de plus en plus la vérité dans les parties intérieures, et y être de plus en plus affermi. Qu'est-ce que la nourriture extérieure, ou la scène extérieure, ce n'est qu'une ombre? La nourriture intérieure ou la scène intérieure est la substance. Et à mesure que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur, les ombres s'enfuiront, et la substance sera découverte, reconnue et goûtée par vous. Les ombres n'atteignent que la partie extérieure, mais le ministère de la vie, le ministère de la substance, atteint la semence, et vous devez être transplanté de plus en plus dans la semence, afin que Christ soit formé en vous, et vous en lui. Et ainsi croître dans sa nature et son image céleste, hors du terrestre, hors du naturel. Oh, que le Seigneur Dieu fasse prospérer sa propre semence et sa sainte plantation dans votre cœur, et vous garde dans l'esprit doux, humble, abaissé, pauvre et tendre, auquel vont sa miséricorde et sa bénédiction. Je m'attendais à avoir de vos nouvelles, ou du moins de celles de votre fillesse, avant ce moment, pensant avoir reçu de sa part une promesse en ce sens. Que le Seigneur la soutienne, la préserve et la bénisse. Qu'elle ne regarde pas au dehors, mais qu'elle regarde seulement au dedans, ce que veut le Seigneur, et qu'elle ne s'occupe de rien d'autre, et tout ira bien pour elle. Mon cher amour est pour vous et pour elle, moi qui suis votre ami sincère. IP, 4 jours du 9e mois, 1673. Lettre XXXI, délivrance des ennemis spirituels par Christ, entre l'extérieur et l'intérieur. Cher ami, car dans ces vrais désirs que j'observe dans votre cœur envers le Seigneur, vous m'êtes cher, et vous ne pouvez que m'être cher. J'avais désiré rester un peu avec vous, la dernière fois que je passais par Uxbridge, mais on m'en a empêché. L'occasion de vous écrire était quelque chose que j'avais sur le cœur à votre sujet. Voulez-vous connaître le Seigneur dans l'alliance de l'Évangile et marcher avec lui en elle? Je sais que oui. Voulez-vous que le péché soit détruit en vous et que Christ règne dans votre cœur? Voulez-vous combattre contre vos ennemis pour les vaincre et ainsi courir la course de manière à obtenir certainement le prix éternel et l'éternel poids de gloire? Oh alors, ayez égard à la vérité dans les parties intérieures, à la grâce et à la vérité qui viennent par Jésus-Christ, à qui Dieu a donné puissance, et qui donne puissance aux siens, par la grâce de son Saint-Esprit, sur le péché et la corruption dans les parties intérieures. Dieu n'a-t-il pas vaincu les ennemis des Juifs extérieurs en Égypte, dans le désert, et aussi dans le bon pays? Et ne le fera-t-il pas intérieurement pour les Juifs intérieurs? Il y a des ennemis en Égypte, dans le pays qui est pour ainsi dire tout entier ténèbres, et sous l'oppression du pharaon spirituel. Il y a des ennemis dans ce cœur qui est comme un désert et un lieu solitaire, et il y a des ennemis dans ce cœur qui est en quelque mesure renouvelé et rendu bon et honnête. Or, tous les ennemis spirituels, tous les ennemis de la propre maison d'un homme, doivent être détruits par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, agissant par sa grâce dans le cœur, laquelle, reçue à laquelle on se soumet, dans laquelle on demeure et à laquelle on obéit, apporte délivrance et salut de tous ses ennemis. Et lorsque le salut est ramené au cœur et y est accompli par le Seigneur, il doit être goûté et l'on doit y demeurer, et l'âme ne doit pas retourner à nouveau en captivité, mais délivrée des mains de ses ennemis intérieurs et spirituels, par la sainte alliance intérieure et spirituelle, elle doit servir Dieu dans la domination de la vie de son Fils, dans la sainteté et la justice tous les jours qu'elle passera ici sur la terre. Ô mon ami, garde intérieurement cette précieuse vérité, cette précieuse grâce intérieurement, la précieuse vie intérieurement, la précieuse lumière intérieurement, la précieuse puissance intérieurement, la parole de vie intérieure, la voix intérieure du berger dans le cœur, la semence intérieure, le sel intérieur, le levain intérieur, la perle intérieure, etc. Par lesquels le Christ opère cela, distingue entre les paroles sans rapport avec la chose, et la chose même au-dedans, et attend et travaille alors à connaître, comprendre et être guidé par les motifs, les conduites, les attirances, les enseignements, les vivifications, etc., de la chose même au-dedans. Et prends garde de t'offenser à cause de quoi que ce soit, au-dedans ou au-dehors, car des offenses viendront, mais béni fut celui qui ne s'offensa pas du Christ extérieurement au jour de sa chair. Et béni est celui qui ne s'offense pas de sa vérité intérieure et de sa manière intérieure d'apparaître au jour de son esprit. Moïse, ce précieux serviteur du Seigneur, parla inconsidérément de ses lèvres. Combien donc est-il facile pour ceux qui n'approchent pas de l'état de Moïse d'en faire autant? Mais attends Dieu, afin que tu puisses distinguer entre ce que la vérité dit en l'un de nous, et ce que l'un de nous peut dire inconsidérément, hors de la vérité, si nous ne nous tenons pas en veille, et si nos paroles ne sont pas assaisonnées de la lumière de Dieu et de sa grâce. Car priez Dieu, comme l'Esprit de Dieu conduit et donne la capacité, et veillez pour prier, et cherchez des occasions tant seules que dans nos familles, afin que Dieu ouvre nos cœurs et souffle sur nous, et pour une lecture fréquente et diligente des Saintes Écritures, nul ne peut, depuis la vérité, rendre témoignage contre ces choses, quoique, contre l'accomplissement mort et formel que les hommes en font, il y ait un témoignage vivant. Maintenant, prends garde de te méprendre sur le témoignage en quelqu'un, ou de trébucher si quelqu'un dépasse les justes limites dans son témoignage. Ô mon ami, combien la chose est précieuse, au-delà de toute parole ou témoignage, ô que tu puisses venir à la connaître en toi-même, et à être sensible au ministère de Dieu envers toi par elle, et à son accroissement en toi. Que tu puisses sentir expérimentalement la semence en toi, et la trouver croître de plus en plus, jusqu'à devenir un arbre, et alors t'asseoir sous son ombre, te réjouir de sa protection, et participer de sa sève et de son fruit. Ô que chaque jour tu puisses avoir le sentiment de la vie même, de la vérité même, de la puissance même, de la sagesse même, de la justice même. Et que tu puisses trouver le Seigneur Jésus-Christ, à la fois te dépouillant et te revêtant, intérieurement, sensiblement et expérimentalement. Que tu puisses le trouver autant ton péché, tes iniquités, ton injustice au-dedans et aussi au-dehors, et te remplissant et te revêtant de sa justice, afin qu'ainsi aux yeux de Dieu, et parce qu'il te fait revêtir et forme en toi, tu puisses trouver ton cœur rempli et couvert de la nature, de l'image et de l'esprit de son cher Fils. Que tu puisses en effet dépouiller le vieil homme avec sa nature. Tel est le désir de mon âme pour toi, que le Seigneur t'y guide, et ôte de ton chemin tous empêchements et obstacles. Mon cher et véritable amour va à votre mari. Que le Seigneur manifeste sa vérité pure et vivante dans vos deux cœurs, et rassemble vos deux esprits vers elle, et vous fasse un en elle, votre ami dans la vérité, qui souhaite de tout cœur du bien à votre âme. I.P. Grove Place, 17 du 9e mois, 1673 lettre XXXI Encouragement à la fidélité sous l'appréhension de souffrir, à la veuve Hemmings ma chère amie, je ne vous ai pas oublié, mais je me suis souvent informée de vous, et bien des fois j'ai soupiré pour vous. Ô mon ami, ne regardez pas au dehors vers ce qui se dresse en travers du chemin, et quand cela paraîtrait effroyable comme un lion, Le Seigneur n'est-il pas plus fort que les montagnes de rapine? Mais regardez au-dedans, là où la loi de vie est écrite et la volonté du Seigneur révélée, afin que vous sachiez quelle est la volonté du Seigneur à votre sujet, puis montrez-vous une fidèle fille d'Abraham, et soyez comme Sarah, non effrayée par aucune frayeur. Dès que j'eus lu votre lettre, ceci s'éleva dans mon cœur pour vous, comme un conseil de Dieu, propre à votre état, n'ayez aucune communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les. Ne soyez pas à l'étroit dans votre esprit, comme craignant ce que vous souffrirez pour l'amour du Christ, ou comme si Dieu ne devait pas vous soutenir ou vous faire traverser. Quand vos souffrances seraient les pires possibles, pourtant il est fidèle, celui qui vous a promis le centuple en cette vie. Oh, qu'est-ce qui pourrait vous nuire, si votre Dieu se tient auprès de vous? Soyez fidèle à son témoignage dans votre place, et il se tiendra auprès de vous. Prenez garde de vous joindre à des cultes morts, que la semence de Dieu en vous désavoue et ne peut goûter, mais avec douceur et crainte, témoignez contre, et abstenez-vous de ce que vous ne sentez pas être du Seigneur. Voilà ce qui est pour l'instant dans mon cœur à votre égard, dans un amour vrai et tendre, et dans de fondants désirs pour vous, que le Seigneur vous guide et vous préserve, et vous donne du courage et de la force de l'agneau, qui doit maintenant vaincre par la douceur et les souffrances. Et si la nature méchante, qui est comme une mer rejetant vase et boue, se déchaîne contre vous. Il y a un fleuve, un doux fleuve tranquille et coulant, dont les courants réjouiront votre cœur. Et apprenez seulement, dans le calme et le silence, à vous retirer vers le Seigneur et à l'attendre, en qui vous sentirez paix et joie, au milieu de votre trouble provenant de l'esprit cruel et vexatoire de ce monde. Attendez donc de connaître chaque jour votre œuvre et votre service pour le Seigneur, dans votre place et votre condition, et que le Seigneur vous rende fidèle en cela, et vous ne manquerez ni d'aide, ni de soutien, ni de consolation. Votre ami dans l'amour le plus vrai, le plus sincère et le plus constant, I.P. Londres, 1er du 9e mois, 1675 lettre XXI exhortation à mourir, attendre, sentir la semence à Dulcibella Letton, cher ami, au sujet de laquelle je sens un travail, voici le sentiment de mon cœur à votre égard. Il y a en vous une semence pure de vie que Dieu a semée, oh qu'elle puisse percer et l'emporter sur tout ce qui est au-dessus d'elle et contraire à elle. Et pour cela, attendez chaque jour de la sentir, et de sentir votre esprit s'y soumettre et s'y joindre. Prenez garde de regarder au dehors, dans les raisonnements de votre esprit, mais demeurez dans le sens intérieur de la vie. Et alors s'élèvera en vous de plus en plus ce qui rend véritablement sage, donne puissance, et introduit dans la sainte autorité et la domination de la vie. Beaucoup, qui ont longtemps voyagé, entrent maintenant dans leur possession et leur héritage, que le Seigneur agrandit chaque jour en eux et pour eux. Oh que votre lot soit parmi eux attesté et possédé intérieurement par vous, estimez les exercices intérieurs, les peines et les troubles, et que la foi et la patience y accomplissent leur œuvre parfaite. Oh, désirez être bon, droit et parfait aux yeux de Dieu, et attendez de sentir la vie, l'esprit et la puissance qui le rendent possible. Sortez de la connaissance et de la compréhension au sujet des choses, pour entrer dans la vie sentie, et que cela soit votre connaissance et votre sagesse, ce que vous recevez et retenez dans la vie sentie, et cela vous conduira dans les pas du troupeau, sans raisonner, consulter ni disputer. Oh, attendez d'être enseigné et rendu capable par Dieu de faire des pas justes dans vos voyages, et de prendre la croix et de mépriser la honte en toute chose où cette sagesse, cette volonté et cet esprit, qui doivent être crucifiés, voudraient juger, car ils jugeront mal et vous égareront si vous les écoutez. Que le Seigneur vous montre les pièges et les dangers auxquels vous êtes exposés, et vous en fasse sortir, afin que tout ce qui empêche vous soit découvert, et que votre esprit s'unisse uniquement à ce qui découvre pour que cela soit ôté du chemin, et que toute chose tortueuse soit redressée en vous, et les aspérités aplanies et les hauts abaissés et les bas élevés, et les faibles et insensés rendus forts et sages, et les sages et forts rendus faibles et insensés. Oh, attendez de sentir et de comprendre mes paroles, afin que votre conduite soit réglée correctement par la puissance et la sagesse de Dieu, et que vous puissiez intérieurement venir à témoigner la glorieuse venue de celui qui est le salut de Dieu, et en qui vous ne manquerez pas de voir le salut de Dieu. Vous devez être très basse, faible et insensée, afin que la semence s'élève en vous pour vous élever et devenir votre force et votre sagesse, et vous devez mourir énormément, encore et encore, de plus en plus, intérieurement et profondément. Afin que votre vie jaillisse de la sainte racine et du saint tronc, et que vous soyez de plus en plus rassemblés en lui, y germer, y croître, et vivre seul dans la vie, la vertu et la puissance qui en procèdent. Le voyage est long, les exercices nombreux, les pièges, tentations et dangers nombreux, et pourtant la miséricorde, le secours et l'aide sont grands aussi. Que vous puissiez sentir votre vocation et votre élection, votre abaissement, votre relèvement et votre établissement, dans la semence pure, dans la lumière et la justice de celle qui est au-dessus de tout. Que vous puissiez chanter des cantiques des degrés au Rédempteur d'Israël, et chaque jour davantage participer de lui et vous réjouir en lui, qui est notre joie et sa couronne. Votre ami, dans l'amour le plus sincère et le plus tendre, I.P. 11 du 5e mois, 1667 lettre XXXIV sur le déclin du premier amour et le désir de quoi que ce soit dans le monde comme convoitise et péché. À George Wingfield, cher ami, deux choses demeurent sur mon cœur, depuis notre dernière brève conversation à la fenêtre chez King's, par mon désir que tout aille bien pour vous et que vous soyez juste aux yeux de Dieu. L'une est cette parole de vous au sujet de votre amour pour la vérité et pour les amis, comme s'il était aussi grand qu'il l'avait jamais été. Maintenant, je vous en prie, pesez cette chose et attendez Dieu pour savoir si c'est réellement ainsi ou non, ce que vous pourrez comprendre par ceci, si vous êtes aussi réellement désireux, vigilant, et d'un cœur simple pour connaître et obéir au commandement de la vérité comme jamais, alors votre amour pour elle est aussi grand qu'autrefois, dans sa première ardeur et son premier zèle, sinon non. Celui qui a mes commandements et qui les garde, dit Christ, c'est celui-là qui m'aime. Jean 14, 21. Et par là, nous savons que notre connaissance de lui est vraie et vivante, parce qu'elle nous conduit, nous vivifie et nous rend capables de garder ses commandements. 1 Jean 2, 3. L'autre est que vous avez dit, votre cœur n'est pas endurci. Considérez cela sérieusement, car si votre cœur est endurci, et que vous ne vous en rendiez pas compte, votre état est extrêmement dangereux. Or, si le Seigneur, par sa puissance, vous a préservé de ce qui endurcit le cœur, alors sans doute, votre cœur n'est pas endurci. Mais si l'ennemi vous a tenté de laisser entrer dans votre esprit des raisonnements contre quoi que ce soit qui soit réellement de Dieu, et si vous vous êtes engagé dans des pratiques contraires à la vérité, et que vous les justifiez dans votre cœur, par des raisonnements et des pensées que l'ennemi a suggérées à votre esprit et qu'il y a renforcées, alors sans doute, votre cœur est jusque-là endurci. Il est impossible pour vous, ou pour qui que ce soit, de laisser entrer ce qui endurcit sans être endurci. Oh, prenez à cœur ce précieux conseil de l'apôtre, Hébreux 3:13. Remarquez, le péché trompe, la convoitise trompe, le désir de toute chose qui plaît à la chair et qui est désirable pour la nature mondaine trompe. Et quiconque est trompé par cela et le laisse entrer, notez, il ne le laisse pas entrer comme une chose mauvaise, mais il en est trompé, son cœur s'endurcit contre ce qui lui montrerait le mal de la chose et détournerait son esprit d'elle, s'il l'accueillait en vérité et ne s'endormait pas dans la tromperie. Et il faut une vigilance quotidienne contre ce qui trompe et endurcit, comme l'apôtre leur conseille là de s'exhorter les uns les autres, de peur que l'ennemi, à quelque moment, n'en prenne quelqu'un dans le piège du péché, et ne l'endurcisse ainsi. Or, celui qui ne voudrait pas provoquer le Seigneur à l'abandonner à une dureté complète doit prendre garde à ses degrés, et heureux est celui qui le fait ainsi. O.G.W. Considérez, devant le Seigneur, si votre marche répond à la vérité, autant que vous connaissez la vérité. Et si vous êtes volontairement ignorant de quelque chose que le bon Dieu est disposé et prêt à vous faire connaître, afin que vous puissiez prendre plus de liberté pour la chair en cela même que la vie de la vérité, si elle était sentie, condamnerait bientôt et vous en retirerait. Ceci vous est écrit dans l'amour le plus sincère, de la part de celui qui a toujours été votre ami. I.P. 11 du 12e mois, 1667 lettre XXXV Les exigences de Dieu, simplement exposées, cette lettre apparaît aussi comme un prélude à toutes les autres, au chevalier William Drake ainsi intitulé, premièrement. Il y a un Dieu saint, juste, vivant, puissant, qui a fait le ciel et la terre, et toutes les choses qui s'y trouvent, et enfin, il a fait l'homme à son image, et l'a établi sur les œuvres de ses mains pour avoir la domination, et pour gouverner sur elles dans sa sagesse et sa puissance, et pour les conduire, les ordonner et en user, à la gloire de celui qui les a faites. Or, dans cet état, Dieu prit plaisir et se complut dans les œuvres de ses mains, et dans l'homme plus que dans tout le reste, deuxièmement. L'homme, péchant contre son Créateur, perdit cette image qui était sa gloire, et devint bestial dans son intelligence, et ennemi de Dieu dans sa pensée, et exposé à la colère de la nature sainte et juste de Dieu. Troisièmement, il ne peut plus y avoir de réconciliation entre Dieu et l'homme, si ce n'est par le changement de cette nature en l'homme, car Dieu est immuable, il est lumière, il est vie, il est sainteté immuable, et ne sera jamais réconcilié avec les ténèbres, ni n'aura communion avec ce qui est mort et impie. Ce que l'homme est dans son état de chute jusqu'à ce qu'il soit engendré de nouveau à Dieu, changé et renouvelé de sa nature mauvaise et pécherait en une nature bonne et sainte, et jusqu'à ce qu'il soit détourné des œuvres mauvaises, et sache ce que c'est d'être l'ouvre. Quatrièmement, rien ne peut produire ce changement en l'homme, sinon l'Esprit et la puissance du Christ, sinon la grâce et la vérité qui sont par Jésus-Christ. Ainsi un homme doit s'assurer qu'il reçoit cet Esprit et cette puissance, et qu'il en sent la vertu opérante et transformante, et qu'il en est réellement changé, étant créé de nouveau la nouvelle créature, engendré de nouveau à Dieu dans la sainteté et la justice de la vérité, fils et serviteur du Dieu vivant. Autrement, il ne peut jamais savoir ce qui appartient à la véritable réconciliation avec Dieu et à la communion avec lui dans la lumière et la vie de son Fils. Cinquièmement, toutes les religions et professions à la surface de la terre qui manquent de cet esprit, de cette vie et de cette puissance, et dans lesquelles cette nouvelle création en Jésus-Christ n'est pas attestée, ni la puissance reçue de s'abstenir du mal et de devenir fils de Dieu, ne sont pas la religion évangélique pure et puissante, dans laquelle opère la vertu et la puissance divine de la vie, mais une chose que les hommes, dans leur sagesse terrestre, ont formée sans vie. Et toutes les religions qui n'ont qu'une forme de piété, et non la puissance, doivent être rejetées, et il faut en témoigner contre, par ceux qui sont appelés à être témoins de la véritable religion évangélique et de la manière d'adorer qui consiste en esprit, vie et puissance. Sixièmement. Cette religion et cette adoration, qui consistent en esprit, vie et puissance, sont la religion et l'adoration que le Christ a établies il y a environ 1600 ans. Jean 4, 23-24, 1 Cor 4, 20, Rome 6, 4. Et c'est cette religion que Dieu a fait revivre et a rétablie, comme la prêchent maintenant ceux qui reçoivent l'Évangile, et croyant à la puissance dont il est rendu témoignage au dehors et qui est aussi révélée au dedans, ils en ont le témoignage dans leur propre cœur. Rêve 14, 6-7, 1 Jean 5, 11-12, Ésaïe 51. Oh que ces Écritures sont douces, lorsqu'elles sont lues comme il convient et correctement comprises, le Seigneur donnant la juste intelligence et conduisant à leur véritable expérience. Amis, vous avez exprimé à l'un de mes plus jeunes fils, comme il me l'a rapporté, que vous aviez le désir que je vous rende visite, afin que vous puissiez avoir quelque entretien avec moi au sujet de la religion. C'est le genre d'entretien le plus profitable qui puisse être, s'il est réglé dans la crainte du Seigneur, et dans un sens grave et un saint tremblement devant lui. Je suis très sérieuse en ce qui concerne la religion, et ne voudrais en aucune manière m'y tromper ni faillir. Et si je pouvais vous être utile, ou utile à quelque homme que ce soit, quant à la vérité et la puissance de la religion, ce serait pour mon cœur un sujet de joie, et de louange et bénédiction au Seigneur, dans le sentiment qu'il étend sa main pour sauver quelqu'un. Or, afin que notre rencontre et notre entretien soient d'autant plus solennels et avantageux, je vous ai envoyé quelques propositions simples à considérer, que je trouve non seulement signifiées dans les Écritures, mais que le Seigneur a aussi écrites sur mon cœur, et si elles sont claires pour vous, et que vous en soyez aussi dans le sentiment sérieux, cela pourra contribuer à rendre notre entretien plus aisé et plus profitable. Ce sont là les choses principales, et celui qui est bien fondé, je veux dire dans l'expérience vraie et sensible celle-ci dans son cœur, ne peut manquer d'avoir la direction de Dieu pour y faire un progrès sûr et heureux, pourvu qu'il attende chaque jour le Seigneur, afin d'être enseigné et conduit par lui de plus en plus dans la vie, l'esprit et la puissance de la vérité, de sorte qu'il sera enseigné de Dieu à connaître son Fils Jésus, et la liberté qui est par la vérité telle qu'elle est en Jésus de jour en jour davantage. Ô quel état glorieux l'homme connu jadis, avant d'avoir transgressé la sainte loi de Dieu, mais lorsqu'il pécha, combien il déchut de la gloire de Dieu. Pourtant, à mesure qu'il entend sa voix et le suit, celui qui conduit hors du péché vers l'image de Dieu, vers la sainteté et la justice de la vérité, comme le Seigneur le ramène, et comme il retourne, sous les bienheureuses conduites du bienheureux Esprit de Dieu, dans la gloire de Dieu à nouveau. Lisez 2 Cor 3, 18. Et oh que vous puissiez savoir réellement et sensiblement ce que cela signifie par une expérience effective, non imaginée ni présumée, je reconnais votre bonté, et je désire que vous obteniez de Dieu la connaissance de lui-même et de son Fils, laquelle est éprouvée par ceux qui la reçoivent comme étant, en effet, la vie éternelle. IP. Ceci fut écrit dans un amour vrai et une bienveillance, et dans la crainte du Seigneur, et dans les jaillissements et les ouvertures de sa vie en mon cœur. 19 du 5e mois, 1678 lettre XXXV le cœur à purifier et à être pleinement pris par le Christ ASW. Cher ami, j'ai toujours eu de l'amour pour vous et un sentiment profond de l'œuvre sérieuse de Dieu sur votre cœur et des désirs droits de votre âme après lui. Et que le Seigneur vous ait encore conservé en vie au milieu d'une si grande et languissante faiblesse est merveilleux à mes yeux et je l'espère tant à quelque honneur de son nom et à votre bien. Je me suis souvent informé dernièrement de vous et j'ai été heureux d'apprendre ce dont je m'informais par une lettre de votre propre main. En la lisant dans le recueillement de mon cœur, j'ai senti l'amour s'élever pour vous et des soupirs vers le Seigneur pour vous. Et oh, que vous puissiez pleinement sentir et être joint à la semence de vie, la semence du royaume, dont notre Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, n'a pas dédaigné d'être le prédicateur. Ô mon cher ami, que nulle partie de votre vie ne demeure dans des notions au-dessus de la semence, mais que tout demeure dans la semence même, dans votre attente du Seigneur pour ses éveils en vous, et dans le sentiment de ses éveils. Oh, que deviennent la chair, et le moi, et la justice propre, lorsque cela vit dans le cœur. Ma religion, pour laquelle je bénis maintenant chaque jour mon Dieu, a commencé dans cette semence, et quand je la sentis pour la première fois, et que je la connus avec discernement comme venant du Seigneur, mon cri vers lui fut, « Oh, c'est cela que j'ai désiré et attendu, oh, unis mon âme à toi en cela pour toujours. » C'est le don de ton Fils venant de toi, la grâce de ton Fils, la vérité de ton Fils, la vie de ton Fils, l'esprit de ton Fils. Je ne désire rien de plus que d'être réduit à rien en moi-même, afin que cela soit tout en moi, et ce que je rencontre et atteste ici, ce que je sens que le Seigneur Jésus-Christ ait fait pour moi ici, nul ne le sait, ni ne peut peut-être le savoir, sinon ceux qui ont senti la pure puissance de l'Esprit de vie, et qui ont été conduits par elle dans la même expérience sainte et bienheureuse. Le péché n'a aucune part ici, dans cette semence bénie, il en est exclu par la vie et la puissance qui sont plus fortes que lui. Ici, Christ est formé dans l'âme, en vérité. Ici, les vêtements noirs d'injustice, oui, même de la justice de l'homme, sont dépouillés, et le vêtement blanc est revêtu. Ici, la sainte image est produite dans le cœur, l'image même du cher Fils, qui participe de la nature divine du Père. Ici, l'âme est nouvellement créée en Jésus-Christ. Ici, on ne rencontre aucune tromperie d'aucune sorte, mais seulement la vérité venant de Dieu, la vraie vie, la vraie lumière, la vraie vertu, la vraie puissance du Seigneur Jésus-Christ, telles qu'elles sont senties expérimentalement dans le cœur, et y opérant aussi efficacement que la puissance du péché l'a jamais fait. Oh, que vous puissiez discerner cela chaque jour, et sentir cela croître en vous de plus en plus, et mourir à toutes les notions, même des choses célestes elles-mêmes, en dehors de cela, afin que votre âme vive pleinement dans la vie, l'esprit et la puissance du Seigneur Jésus-Christ, et que rien d'autre que sa vie, son esprit et sa puissance ne vivent en vous, à la gloire de Dieu le Père, et pour la grande joie et l'allégresse de votre cœur en sa présence. Amen, votre ami, dans l'amour vrai et sincère de la semence céleste et éternelle, IP. 12e mois, 1678 lettre XXXVI La nécessité et les bienfaits de l'affliction à Lady Connu, cher ami, dans un tendre amour, et avec le sentiment de vos douloureuses afflictions et de vos exercices, je vous salue très affectueusement, désirant pour vous que l'œuvre du Seigneur dans votre cœur ne soit interrompue par aucun artifice de l'ennemi, mais qu'elle aille de l'avant et prospère en vous, dans le jaillissement de la semence pure de vie en votre cœur, et dans le renversement puissant par le bras puissant. Oh, que vous puissiez sentir chaque jour cette sainte naissance de vie, engendrée par le Père, et qui vit par la foi en lui. Je dis, oh, que vous puissiez la sentir chaque jour vivant en vous, quand les tentations et les épreuves augmentent de toutes parts, sentir la naissance de vie, qui criera au Père, « Seigneur, augmente ma foi ». Quand bien même les chagrins, l'abattement et les défaillances de cœur augmenteraient tant que ce soit, pourtant, si votre foi augmente aussi, elle vous soutiendra au milieu d'eux. Je voudrais volontiers que tout aille bien pour vous, et que le réprouveur ne manque rien en vous qui doive être repris, ni que le consolateur fasse des fautes en quelques points où votre âme a besoin de consolation, ni que le saint conseiller et avisateur fasse des fautes dans quelque étroitesse ou difficulté que le Dieu sage et tendre ordonne de vous arriver. Que vous puissiez venir à sentir l'usure quotidienne du péché et de la mort, et le jaillissement quotidien de la vie et de la sainteté en votre cœur. La perle vaut des milliers de mondes, avec la plus grande gloire et le plus grand plaisir terrestre imaginable. Oh, que Dieu vous enseigne à la discerner de plus en plus, et à l'acheter, et à entrer dans sa jouissance et sa possession. Que le Seigneur vous manifeste de plus en plus, vous en montre la gloire, y tourne vos pas, et mette dans votre cœur de chercher auprès de lui le chemin qui y mène, vous renouvelant de plus en plus dans l'esprit de votre intelligence, par quoi le chemin vient à être clairement discerné et fidèlement parcouru, afin que vous puissiez témoigner chaque jour de l'alliance éternelle de vie et de paix, savoir les grâces assurées de David. Le désir de mon âme est que, quelque pénibles que soient vos afflictions, elles ne soient que momentanées, et qu'elles vous préparent et produisent pour votre âme un poids éternel de gloire à hériter dans un autre monde pour toujours. Je demeure un compagnon de sympathie avec vous dans vos souffrances, désirant que tout l'avantage et toutes les bénédictions du Dieu de ma vie vous reviennent, que les difficultés, les tentations et les épreuves préparent au cœur et auxquelles elles ouvrent la voie. IP 14 du 12e mois, 1678 Postscriptum. Ma chère amie, quelque temps après avoir écrit ce qui précède, ceci s'est élevé en moi pour vous. Si le Seigneur, tandis que vous l'attendez afin qu'il sonde et éprouve votre cœur et vos voix, veut bien vous montrer quelque chose de mauvais en vous, prenez à cœur ce conseil que j'ai pour vous. Ne le regardez pas trop d'une part, ni ne l'excusez d'autre part, mais enfoncez-vous au-dessous de vous-même, vous retirant là où vous pouvez recevoir du Seigneur un jugement véritable à son sujet, et aussi de la force contre lui. Concentrez-vous sur ce qui vous montre votre problème, non sur le problème, car ce qui vous montre votre péché est la même chose qui l'enlèvera. Et sachez ceci, dans la sainte expérience, il faut que vous soyez affaibli par le Seigneur, et que vous soyez contente dans, ou avec, votre état faible et affligé, si vous voulez recevoir de lui miséricorde et force. Et plus vous êtes affaibli et affligé, plus vous y êtes disposé, et plus abondamment vous participerez à sa miséricorde et à sa force, l'attendant dans l'esprit doux, tranquille, patient et résigné, dans lequel il ne manquera pas de façonner votre esprit, afin qu'au bout de tout, vous recueilliez de sa main les fruits paisibles de la justice et de la paix céleste. Amen, qu'il en soit ainsi du Seigneur pour votre âme. Lettre XXXV sur le bénéfice de la correction par les afflictions à Lady Conway. Cher ami, comme je m'étais récemment retiré en esprit et que j'attendais le Seigneur, ayant sur moi le sentiment de votre longue, douloureuse et profonde affliction et détresse, une écriture s'est élevée dans mon cœur pour vous la mettre devant les yeux, à savoir Hébreux 12, 5, 7, et je vous en prie, faites demander une Bible et faites-la lire, avant de passer à ce qui suit, ô mon ami. Après qu'il a plu au Seigneur, dans une tendre miséricorde, de nous visiter et de détourner nos esprits du monde et de nous-mêmes vers lui, et d'engendrer et nourrir en nous ce qui est pur et vivant, venant de lui-même, pourtant malgré cela, il demeure au commencement une certaine mesure, oui et peut-être longtemps, qui doit être recherchée par la lumière du Seigneur, et abaissée et soumise par sa main affligeante. Lorsqu'il y a, en effet, quelque chose d'une volonté sainte formée au jour de la puissance de Dieu, et que l'âme en quelque mesure est engendrée et enfantée pour vivre à Dieu dans la sagesse céleste, pourtant toute la volonté et la sagesse terrestre ne sont pas pour autant aussitôt ôtées, mais il demeure encore en vous des choses cachées de l'ancienne nature et de l'ancien esprit qui, peut-être, ne paraissent pas mais s'enfoncent intérieurement jusqu'à leurs racines afin de sauver leur vie, chose que l'homme ne peut aucunement découvrir dans son propre cœur. Mais comment le Seigneur les découvre-t-il? Oh, considérez, son feu est dans Sion, et sa fournaise dans Jérusalem. En jetant dans la fournaise de l'affliction, le feu sonde. L'affliction profonde, douloureuse et accablante, qui déchire et dépeugle jusqu'aux entrailles, met à nu la semence et la paille, purifie l'or pur et consume les scories. Et alors, enfin, l'état paisible est attesté, et le fruit paisible de la justice est produit par la nature et l'opération scrutatrice et consumante du feu. Oh, que votre âme soit éprouvée jusqu'à la victoire sur tout ce qui n'est pas de la vie pure en vous. Et que vous puissiez attendre de sentir la semence pure, ou la mesure de vie en vous, et mourir dans la semence, sentant la mort à tout ce qui n'est pas de la semence en vous, et que vous puissiez sentir dans la semence la guérison vivifiante, le rafraîchissement, le soutien et la consolation venant du Dieu de votre vie, et nulle part ailleurs, ni à aucun moment, mais seulement quand il plaît au Seigneur de vous l'administrer là. Oh, que le Seigneur vous guide chaque jour, et garde votre esprit tourné vers lui, du moins, regardant vers le lieu saint où jaillissent sa vie et sa puissance en votre cœur. Regardez vers lui, secours, compassion, salut s'élèveront dans leur temps, mais ils ne s'élèveront pas de quoi que vous puissiez faire ou penser, et la foi jaillira et la patience sera donnée, et l'espérance dans le tendre Père de miséricorde, et un esprit doux et tranquille sera attesté, et la nature de l'agneau jaillissant et s'ouvrant en vous depuis sa précieuse semence, surpassera en nature, en genre, en degré, en vertu, toute la foi, la patience, l'espérance, la douceur, etc. Auquel vous, ou tout autre, pourriez autrement atteindre. Oh, ne regardez pas votre douleur ou votre chagrin, si grand soit-il, mais détournez-vous d'eux, quittez-les des yeux, regardez au-delà d'eux, vers le Libérateur dont la puissance est au-dessus d'eux, et dont l'Esprit aimant, sage et tendre est capable de vous faire du bien par eux. Et si les afflictions extérieures produisent un poids de gloire excessif, oh, que feront les afflictions intérieures pour ceux qui, humblement, dans le brisement et avec fidélité, sont exercés devant le Seigneur par elles? Oh, attendez de sentir la semence, et le cri de votre âme dans la vie respirante de la semence vers son Père, avec sa douce, bienveillante et naturelle soumission à lui. Et attendez les élévations de la puissance dans votre cœur, aux saisons du Père, et la foi en la puissance, afin que vous puissiez sentir une guérison intérieure de toutes les blessures intérieures que le Seigneur fait dans votre âme, par son amour pour vous et pour votre bien. Si vous voulez recevoir le royaume qui ne peut être ébranlé, vous devez attendre que soit découvert en vous ce qui peut être ébranlé, et que le Seigneur, se levant terriblement, secoue la terre, et qu'elle soit ôtée de sa place comme une cabane, et que les cieux aussi soient roulés comme un rouleau. Et tandis que le Seigneur fait cela, il vous cachera dans le creux de sa main, votre esprit se retirant toujours vers la semence, et dans ces temps troublés et lugubres, il formera intérieurement les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où, lorsqu'ils sont enfantés et établis, la justice habite. Que le Seigneur vous conduise, jour après jour, dans le bon chemin, et garde votre esprit appuyé sur lui, quoi qu'il vous arrive, afin que la croyance en son amour et l'espérance en sa miséricorde, lorsque vous êtes au plus bas, maintiennent votre tête au-dessus des flots, et que vous continuiez dans l'état de disciple, apprenant la justice et la sainteté de celui qui en sait à renoncer à déposer l'impiété et l'injustice, et à connaître, embrasser et revêtir la nouveauté de vie, et la sainteté et la justice qui en procèdent. Que le Seigneur Dieu de ma vie soit avec vous, préservant et ordonnant votre cœur pour le grand jour de son amour et de sa miséricorde, qui viendra au temps fixé, lorsque le cœur sera pleinement exercé et disposé par le Seigneur pour cela, et il ne tardera pas. IP lettre XXXX les promesses, les changements de votre cœur, l'implantation de lui en vous cher SW. J'ai toujours eu de l'amour pour toi, et j'ai souvent été rempli de vifs désirs à ton égard, afin que tu connaisses le Seigneur dans ses propres enseignements purs, et que tu chemines vers, et demeures dans, la plénitude du royaume de son Fils bien-aimé. Et que tu sois béni de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pour y parvenir, Tu dois attendre de connaître Dieu et Christ, dans le mystère de leur esprit, de leur vie et de leur puissance. Et par cet esprit, cette vie et cette puissance, trouver les secrets du mystère des ténèbres sondés et purgés, et le mystère de la piété ouvert et établi dans ton cœur à leur place. Christ formé intérieurement, l'âme formée, oui, et créé intérieurement à nouveau en lui, une véritable transplantation dans sa mort, et un véritable sentiment de sa vie jaillissant et ressuscité, et toute expérience de la. Oh, c'est là en vérité la pure, précieuse et vivante connaissance du Seigneur Jésus-Christ, vers laquelle tend toute connaissance extérieure, et en laquelle elle est comprise et s'achève. C'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur, dont Paul fut si ravi, et pour laquelle il estimait toutes choses comme de la boue et des ordures. Maintenant, afin que tu obtiennes cela, considère l'apparition intérieure, la racine, la source, le rocher au-dedans, la pierre vivante au-dedans, ses ouvertures, ses jaillissements, la manière dont elle t'administre la vie, et prends garde de te précipiter dans des pratiques extérieures des ouvertures concernant les choses célestes. Mais demeure ou apprends à demeurer, ou prends garde à demeurer dans l'intériorité de la vie au-dedans. C'est l'habitation éternelle de la naissance qui est engendrée et mise au monde, nourrie et maintenue en vie, uniquement par la présence, la puissance et l'opération de l'Esprit vivant. Et le Seigneur Jésus est cet Esprit, tout aussi réellement qu'il fut homme, l'agneau de Dieu saint, céleste, immaculé, sans tache. Et dans cet état, la vie règne dans le cœur, et la corne du saint est exaltée, la tête du serpent écrasée, oui, Satan foulé aux pieds par le Dieu de paix, qui veut que ses enfants demeurent dans la douceur et la plénitude de l'Évangile, dans la paix, la vie, la justice et la joie de son esprit et de sa puissance bénie. Qui ne désirerait, n'attendrait et ne marcherait avec le Seigneur, vers l'obtention et la possession de ces choses, toutes les promesses en Christ sont oui et amen. La victoire intérieure est promise, la présence intérieure de Dieu est promise, l'habitation et la marche de Dieu dans l'âme sont promises, Christ soupant avec l'âme et l'âme avec lui est promis, mettre la loi dans le cœur et l'y écrire. Y mettre la crainte pure et vivante, oui, y mettre aussi l'Esprit Saint et puissant, qui peut la faire marcher dans les voies de Dieu, garder ses justes ordonnances et les accomplir. Et il est capable de faire cette œuvre dans le cœur, car que ne peut consumer et brûler au-dedans l'Esprit de jugement et de feu. Oui, toutes ces choses sont promises. Il peut amener l'âme à se réjouir dans le Seigneur, à pratiquer la justice, et à se souvenir du Seigneur dans ses voies, comme certains furent instruits et rendus capables de le faire jadis, Isaïe 64. Oh oui, il peut conduire dans la voie de la sainteté, la route royale du roi de gloire, dans laquelle aucune chose impure ne peut entrer, et peut y conserver sans souillure, et ceux qui y sont gardés sans souillure goûtent sa douceur, sa béatitude, sa pureté et son saint plaisir. Je voudrais volontiers que mon âme et la tienne, et tous les gens de Dieu véritables, sérieux et fidèles, fassent l'expérience et puissent dire avec David ce qu'après ses nombreuses épreuves, afflictions, troubles, tentations et sa chute douloureuse, il put dire au sujet de sa marche avec le Seigneur, « Car j'ai gardé les voies du Seigneur, et je ne me suis pas méchamment éloigné de mon Dieu. Car tous ses jugements étaient devant moi, et je n'ai point rejeté ses statuts loin de moi. J'ai été aussi intègre devant lui, et je me suis gardé de l'iniquité. » Psa 18, 21-23. Oh, c'est précieux, lorsqu'un homme en vient à connaître son iniquité, abaissée et soumise, dans laquelle réside sa faiblesse devant l'ennemi, et par laquelle l'ennemi a le plus d'avantages pour le tenter et gagner du terrain sur lui. Assurément, quand quelqu'un reçoit de Dieu la force de vaincre l'ennemi en cela, et de s'en garder, il s'approche beaucoup de ce fait de se garder soi-même, dansé par la vertu de l'Esprit Saint et de la puissance, de sorte que le mauvais ne peut le toucher, ni l'amener à toucher quoi que ce soit d'impur. Réellement ôté où réside la puissance de l'ennemi, et si cela est réellement revêtu où se révèle la force du Seigneur Jésus, et si l'âme est véritablement en possession de cet état et y demeure, comment ne serait-elle pas forte dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ? Et ne rendrait-elle pas témoignage au bon plaisir de la bonté du Seigneur s'accomplissant, et à l'œuvre de la foi avançant avec puissance chaque jour de plus en plus, une petite mesure de cela tenue fidèlement déplace intérieurement les montagnes. Comment alors cela augmente-t-il et croît-il en vie et en vertu, et dans une compréhension et une expérience sensible du nom du Seigneur Jésus ? N'y a-t-il pas, dans cet état, un sentiment de rémission des péchés, un sentiment de rédemption, un sentiment de réconciliation ? Un sentiment d'unité avec Dieu en Christ, un sentiment que Dieu est le salut, la force et le cantique, et une confiance en lui, sans crainte, Isa 12:2. N'y a-t-il pas le fait de ne se soucier de rien, mais en toute chose de faire connaître ses requêtes à Dieu, par la prière et la supplication, avec action de grâce dans cet esprit et ce saint souffle de vie que le Père ne peut refuser, et ainsi, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardant le cœur et la pensée en Jésus-Christ, ô mon ami. Il y a un greffage en Christ, un être formé et créé à nouveau en Christ, un vivre et demeurer en lui, et un croître et porter du fruit par lui jusqu'à la perfection. Oh, puisses-tu faire l'expérience de toutes ces choses, et, afin que tu le puisses, attends de connaître la vie, les jaillissements de la vie, les séparations intérieures de la vide avec tout ce mal qui l'environne, et qui voudrait jaillir et s'y mêler, sous une apparence de bien, afin que la vie en vienne à vivre pleinement en toi, et rien d'autre. Et ainsi descend très bas, devient très petit, et sache peu, oui, ne connaît aucune puissance pour croire, agir ou souffrir quoi que ce soit pour Dieu, si ce n'est ce qui t'est donné par la grâce jaillissante, la vertu et la vie du Seigneur Jésus. Car la grâce est une chose spirituelle, intérieure, une sainte semence semée par Dieu qui germe dans le cœur. Les gens se sont fait une notion de la grâce, mais ne connaissent pas la chose. Ne présume pas sur la base d'une notion, mais sens la chose, et sache que ton cœur est de plus en plus labouré par le Seigneur, afin que la grâce de la semence à lui croisse en toi de plus en plus, et que tu sentes chaque jour ton cœur comme un jardin, de plus en plus clos, arrosé, cultivé, et dans lequel il prend plaisir. Ceci est une salutation d'amour de ton ami dans la vérité, qui vit et ne change pas. IP. 27 du 12e mois, 1678 lettre XL conseil à quelqu'un ballotté comme par les tempêtes, cher ami, votre condition ne peut qu'être faible et sombre, jusqu'à ce que la lumière de la vie se lève en vous, et que la puissance du Seigneur surmonte et soumette la puissance des ténèbres, qui s'efforce de tenir la semence de la vie dans la tombe et dans les liens de la mort. C'est la miséricorde du Seigneur de vous donner des soupirs après la vie, et des cris vers lui contre ce qui vous opprime, et vous serez heureux lorsqu'il remplira votre âme de ce qu'il vous a donné de soupirer après. Seulement que votre cœur attende la force de lui confier le moment, car son long délai est votre salut, et la destruction de ses ennemis qui, tant qu'il leur reste quelque force, ne vous permettront jamais, à vous et à votre Dieu, de demeurer ensemble sans interruption. Ils doivent donc nécessairement mourir, et celui qui a le pouvoir de les tuer connaît le chemin, lequel, selon l'apparence de votre sentiment, sera comme s'il voulait tuer la vie de votre âme et non la leur. Mais demeurez tranquille sous sa main, et contentez-vous d'être incapable de juger de ses voies et de ses œuvres dans votre cœur, et vous sentirez par moments un levain intérieur de vie provenant de son Saint-Esprit, par lequel il changera et transformera votre esprit à son image, en quelque mesure pour le présent. Et bien que cela disparaisse vite de nouveau, et que toute la contrée soit si couverte d'ennemis qu'il ne reste plus aucune vue de la rédemption ni du Rédempteur, l'âme se trouvant en pire état qu'auparavant, pourtant ne vous troublez pas. Car si les troubles abondent, s'il y a des ballottements, des orages et des tempêtes, et n'y peignez rien de visible pour soutenir, pourtant demeurez tranquille et enfoncez-vous au-dessous jusqu'à ce que l'espérance secrète s'éveille, qui soutiendra le cœur au milieu de tout cela, jusqu'à ce que le Seigneur administre la consolation, lui qui sait comment et quel secours donner aux voyageurs fatigués, qui ne sait pas où il en est ni de quel côté regarder, ni où attendre un chemin. Comment vous parlez, comment vous pleurez, oh, que vous puissiez être soutenu jusqu'au jour de la miséricorde de Dieu pour votre âme. Et être rassemblé, hors de toute connaissance que vous pouvez comprendre ou contenir dans ce qui est naturel, dans le sentiment de la vie, afin que vous connaissiez la différence entre vivre de quelque chose reçu de Dieu, et avoir Dieu vivant avec vous et vous administrant la vie selon son bon plaisir, vous étant gardé dans le néant, le vide, la pauvreté et la parfaite résignation d'esprit. Ce conseil vous est adressé par un pauvre et faible vase, IP, lettre X lit encouragement au milieu des épreuves de la croix de Christ, qui est capable de supporter les croix et les afflictions, intérieures ou extérieures, qui surviennent à ce que Dieu retire de l'esprit de ce monde et du chemin de perdition, pour les conduire dans la voie du repos et de la paix éternelle. Pourtant, le Seigneur est capable de soutenir ce qui sent sa faiblesse et qui chaque jour l'attend pour être soutenu sous le poids de la croix. Je sais, cher cœur, que vos épreuves extérieures ne peuvent qu'être aiguës et amères, et je sais aussi que le Seigneur est capable de vous soutenir sous elles et de vous faire tenir ferme, afin que vous ne donniez aucun avantage à cet esprit qui voudrait vous détourner du Seigneur et du chemin de la vie et du bonheur. Oh, si vous pouviez demeurer dans la connaissance et le sentiment de ceci, que le Seigneur regarde vos souffrances avec un œil de compassion, et qu'il est capable non seulement de vous soutenir au milieu d'elles, mais aussi de vous faire du bien par elles, et de faire naître en vous par leurs moyens, cette vie et cette sagesse auxquelles il donnera la domination sur cet esprit qui vous attriste et vous afflige en son temps. Ne vous affligez donc pas de votre lot, ne soyez pas mécontents, ne regardez pas au dehors à la dureté de votre condition, mais quand l'orage et les sujets de vexation sont vifs, regardez vers celui qui peut donner la douceur et la patience, qui peut relever votre tête au-dessus de tout, et faire croître votre vie, afin que vous tiriez profit de tout. Si le Seigneur Dieu ne nous aidait pas de son bras puissant, combien souvent tomberions-nous et péririons-nous? Et si le Seigneur Dieu vous aide proportionnellement à votre condition d'affliction et de détresse, vous n'aurez pas sujet de vous plaindre, mais de bénir son nom. Il est extrêmement bon, plein de grâce et de tendresse, et ne méprise pas, pour l'amour de son nom, les afflictions de l'affligé, en quelque sorte que ce soit. ceci est dans une tendre affection envers vous, avec des soupirs vers mon père, afin que sa plante agréable ne soit pas écrasée en vous par le pied de l'orgueil et de la violence, mais qu'elle les surpasse et qu'elle fleurisse d'autant plus à cause d'eux. De la part de votre ami véritablement aimant dans la vérité, et pour l'amour de la vérité, I.P. Lettre X-Li, sur le fait d'être offensé par ceux qui tombent dans la tentation, c'est de l'infinie miséricorde et compassion du Seigneur que son amour pur visite l'un quelconque d'entre nous, et c'est par la seule préservation de son amour que nous tenons. S'il nous laisse à un moment quelconque, ne fût-ce qu'un instant, que sommes-nous, et qu'y a-t-il, qui n'ait fait quelque chose méritant son retrait, que celui qui est sans faute jette la première pierre à celui qui tombe. Dans la vérité elle-même, dans la puissance vivante et la vertu, il n'y a point d'offense, mais cette part qui n'est pas parfaitement rachetée a encore matière pour que la tentation y travaille, et peut être pris au piège. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, et dans les entrailles de la compassion, qu'il pleure et attende le rétablissement de celui qui est tombé. Ce qui est si prompt à s'offenser est la même chose que ce qui tombe. On ne raisonne pas dans la hauteur d'esprit contre ce qui se détourne du guide pur, mais craint que la part incrédule et charnelle, dite sage, ne s'élève aussi en toi. On connaît la faiblesse de la créature dans les retraits de la vie, et la force de l'ennemi en cette heure. Et la libre grâce et miséricorde qui seules peuvent préserver. Et tu t'étonneras plutôt que quelqu'un puisse tenir debout, au lieu de critiquer certains qui tombent. Lorsque les sources pures de la vie s'ouvrent dans le cœur, l'ennemi cherche aussitôt son occasion pour y entrer, et souvent il trouve une entrée peu après que l'âme est confiante et ne se méfie pas de lui, ayant récemment senti une force si puissante et invincible, et pourtant, combien souvent alors s'introduit-il et frappe-t-il la vie à terre? Et que ne peut-il faire de la créature, à moins que le Seigneur ne l'aide gracieusement? Oh! Grand est le mystère de la piété, le chemin de la vie étroit, le voyage vers le pays du repos long, dur et âpre. Il est facile de faillir, il est facile de faire un pas de côté à tout moment, il est facile de perdre la glorieuse présence du Seigneur, à moins que la défense autour d'elle, par son bras tout-puissant, ne soit maintenue. Il y a un temps où le Seigneur abaisse la clôture de sa propre vigne, à cause de la transgression, et alors le sanglier sauvage peut facilement y faire irruption. Hélas, qui n'en goûte pas quelque chose, en quelque mesure, et qu'est-ce qui empêche qu'il n'en goûte en plus grande mesure, I.P.A. Détourne-toi de la sagesse charnelle et des raisonnements, vers le fleuve pur de la vie lui-même, et attends-y que soit jugé ce qui s'est offensé, de peur que, si cela devient plus fort en toi, cela ne t'éloigne de la vie, qui seule est capable de te préserver, et ainsi toi aussi tu tomberais. Ceci est dans une chère affection pour toi, retire-toi de cette part qui regarde au dehors, et sens la vertu intérieure de ce qui peut te restaurer et te préserver. Lettre X-Li, l'esprit peut demeurer en paix au milieu des accusations de l'ennemi à la veuve Hemmings, ma chère amie, que j'ai toujours aimée véritablement et fidèlement comme sous le regard du Seigneur, et pour qui mon amour dans le Seigneur demeure, depuis que j'ai appris votre maladie et votre faiblesse par M.S. que je voulais envoyer vous visiter, j'ai eu un vif désir de vous voir, et j'ai réfléchi à la manière de le faire, mais je ne le puis commodément pour le moment, comme mon amitié. Porteur de la présente pourra vous l'expliquer davantage, mais les désirs de mon cœur vers le Dieu de ma vie sont qu'il vous visite dans sa tendre compassion, et qu'il vous guide et vous aide à tenir votre esprit fixé sur lui-même, dans sa très précieuse vérité, dont il vous annonce seulement donner un avant-goût mais bien des fois, un plein sentiment et une pleine expérience. Oh ma chère amie, qu'aucune chose ne vienne entre votre âme et la vérité de Dieu, que votre consolation, votre paix et votre joie soient pleines, et que vous puissiez reposer votre tête paisiblement dans le sein de celui qui vous aime, et qui accueille les désirs sincères de votre cœur envers lui, comme je vous l'ai toujours dit, et comme cela est encore vrai vous concernant. Ne vous occupez ni des tentations ni des accusations, ni des nombreux bruits que l'ennemi fera en vous et contre vous, auprès du Seigneur, mais attendez de sentir la vérité et la vie jaillir dans votre cœur de la Sainte Source, et d'entendre la voix douce et silencieuse de l'Esprit du Seigneur, et il vous attestera son amour et parlera paix. Oh, que les tendres entrailles de mon Père Céleste vous soulagent, qu'il vous y rassemble intérieurement, et vous y préserve, là où l'ennemi ne peut faire irruption sur vous. Ne regardez pas vos péchés, même depuis que vous avez connu la vérité, dans laquelle vous auriez pu rencontrer de la force contre le péché et une préservation du péché, et avoir été en quelque mesure béni par le Seigneur, mais attendez de sentir quelque chose intérieurement, en quoi Dieu apparaît et respire, et rassemble, et reçoit, et allège des fardeaux, des craintes, des doutes, des troubles, des tentations et des accusations, etc. Et que le Seigneur Dieu de ma vie et de tendre miséricorde, qu'il a rendu certaine pour mon âme dans l'Alliance éternelle, vous donne une paix solide et une consolation dans le Fils de son amour, par la mesure de sa grâce et de sa vérité jaillissant dans votre cœur et tenant votre esprit fixé sur lui. Sentez la semence et la foi qui jaillit de la semence, qui donne la victoire sur l'ennemi et sur toutes ses œuvres mystérieuses dans le cœur. Votre ami, dans l'amour le plus vrai et le plus sincère, I.P. Lettre X-Live Christ, la racine de toute vraie religion à Thomas Walmsley. Cher ami, il y a ce matin quelque chose sur mon cœur à vous écrire, dans le même amour dans lequel je vous ai déjà écrit, que je sens être pur venant de Dieu et sincère envers vous et envers tous les hommes, bien qu'il établisse aussi une différence entre ceux qui sont renouvelés par lui et portent son image, et ceux qui n'ont qu'une forme de religion, sans la puissance et la vie de celle-ci, qui sanctifie et rachète pour Dieu, partout où elle est reçue. Ce qui était sur mon cœur pour vous, dans un amour vrai, pur et tendre, est ceci qui suit: toute vraie religion a une vraie racine, et cette religion profession, adoration, foi, espérance, paix, assurance, etc., qui ne croit pas de la vraie racine, n'est pas vraie. Or, cette racine est proche, et doit être sentie proche, portant la branche et la faisant porter du fruit. Il ne suffit pas d'entendre parler de Christ, ou de lire au sujet de Christ, mais voici la chose, le sentir comme ma racine, ma vie, mon fondement, et mon âme greffée en lui, par celui qui a le pouvoir de greffer. La repentance m'être donnée par lui, la foi m'être donnée par lui, le Père m'être révélé et être connu de moi par lui, par le pur rayonnement de sa lumière dans mon cœur, Dieu, qui a fait briller la lumière hors des ténèbres, la faisant briller là, de sorte qu'en lui et par lui, je parviens à connaître non seulement le Fils lui-même, mais aussi le Père et ensuite sortir des ténèbres, sortir du péché, sortir des souillures de l'esprit de ce monde, pour entrer dans la pure et sainte communion des vivants, par sa sainte. Ici, une consolation et une satisfaction indicibles sont données par lui à l'âme, que tous les raisonnements des hommes, avec tous les artifices de Satan, ne peuvent étouffer. Car celui qui l'a donné la préserve et la maintient, au-dessus de toute force qui pourrait l'assaillir. Ô ami, je vous en prie, prenez garde à ceci, venez, ô venez à la vraie racine, venez à Christ en vérité. Ne vous reposez pas dans une connaissance extérieure, mais venez à la vie intérieure, la vie cachée, et recevez la vie de celui qui est la vie, et alors demeurez et vivez pour Dieu dans la vie de son Fils. Car la mort et la destruction, la corruption et la vanité peuvent parler de la renommée de Christ, qui est la sagesse de Dieu, mais elles ne peuvent connaître ni découvrir le lieu où cette sagesse est révélée, elles ne peuvent atteindre la crainte vraie et pure que Dieu met dans le cœur des siens. C'est là le commencement de la vraie sagesse, qui nettoie les ténèbres et l'impureté hors des cœurs de ceux à qui elle est donnée. Car la lumière chasse les ténèbres, la vie chasse la mort, la pureté chasse l'impureté, Christ, là où il est reçu, lie et retranche l'homme fort prenant possession du cœur. Et si quelqu'un est véritablement et réellement en Christ, il en vient à rendre témoignage d'une nouvelle création, à savoir l'ancien qui s'en va, et toute chose devenant nouvelle. Christ est fidèle dans toute sa maison, de quelle maison nous sommes, disait l'apôtre, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et la joie de l'espérance, Hébreux 3:6, fidèle comme un fils, qui vient au nom et par l'autorité du Père, pour faire tout ce qui doit être fait dans le cœur, fidèle à découvrir tout ce qui est contraire à Dieu, fidèle à engager sa puissance contre cela. Et sa puissance ne prévaudra-t-elle pas, et là où elle prévaut, et où s'accomplit le bon plaisir de la bonté de Dieu, et où l'œuvre de la foi s'accomplit avec puissance, le nom du Seigneur Jésus-Christ n'y est-il pas glorifié? Lisez 2 Corinthiens 11:12 et considérez. Christ a-t-il vaincu le diable dans ce corps de sa chair, et ne le vaincra-t-il pas dans le cœur de ses enfants par la puissance de son esprit, qu'il a reçu du Père pour les consoler et pour poursuivre son œuvre glorieusement en eux? Que deviendront ceux qui ne combattent pas sous Christ et qui ne vainquent pas par Christ? Lisez Rev 3:21. Je ne voudrais pas que vous soyez trompés au sujet de votre âme, ni au sujet de cette religion qui sauve l'âme, laquelle ne consiste pas en parole, mais en puissance. Attendez donc de sentir l'Esprit et la puissance de Christ vous sauver de ce dont rien d'autre ne peut vous sauver, et abaisser en vous, sous ses pieds, ce que rien d'autre ne peut abaisser. Ceci vient du vrai désir que mon âme a pour le salut éternel et la satisfaction de la vôtre. IP 28 du premier mois, 1670. Lettre XLV piège de l'adversaire pour tourmenter l'âme. Ah Bridget Atley, cher ami, je suis sensible de votre pénible labeur et de votre profonde détresse, et de combien il vous est difficile de rencontrer ce qui est consolant et rafraîchissant, et de la facilité avec laquelle ensuite cela se perd, et d'où cela vient, à savoir de l'œuvre de l'ennemi dans un mystère de tromperie dans votre cœur, mystère dans lequel vous ne le percevez ni ne vous en méfiez, mais vous avalez ses appâts, et ainsi il vous frappe de son hameçon, et par là vous ramène dans la région des ténèbres, puis il entre dans cette part en vous qui, pas. Ce ne sont pas des choses étranges pour ceux qui voyagent après le Seigneur, mais tel qu'on rencontre d'ordinaire dans des cas semblables. Mais si votre œil était rendu simple et ouvert par le Seigneur, vous verriez ses appâts et vous vous détourneriez de ce que vous avalez maintenant si aisément, et ainsi vous éviteriez le coup et garderiez votre position dans la lumière et la miséricorde du Seigneur. Vous ne devez pas tant regarder au mal qui est proche, mais plutôt à ce qui se tient prêt à avoir compassion et à aider, et qui a eu compassion et aidé votre âme affligée, et aura compassion et l'aidera encore. Pourquoi y a-t-il un propitiatoire, sinon pour que le pécheur y tourne ses regards au temps du besoin? Vous ne devez pas non plus écouter les questionnements du questionneur qui tend des pièges, mais vous attacher à ce qui les exclut, en demeurant dans le sentiment de l'amour et de la miséricorde, lorsque le Seigneur est bon et tendre envers vous. Lorsque l'ennemi est entré de nouveau dans votre demeure, et a rompu votre repos, votre paix et votre jouissance du Seigneur, de nouveau un vif désir de purification s'est levé en vous, non pas de la vie mais dans le mal. Cela aussi fut un moyen de vous voler ce qui, dans sa demeure et sa puissante opération, purifie le cœur, et ici vous limiteriez le Seigneur dans ses voies, lui qui agit selon le conseil de sa propre volonté, et visite quand et où il lui plaît. Et ainsi l'ennemi, vous ayant pris par ses œuvres mystérieuses, vous attire ensuite dans le puits des ténèbres, où le souvenir de la vie, et le sentiment de la miséricorde et de l'amour s'évanouissent, et il n'y a pour vous aucun secours, ni rien que vous puissiez faire ou penser. Mais soyez patient, jusqu'à ce que la tendre miséricorde et l'amour du Seigneur vous visitent de nouveau, et alors, levez les yeux vers lui contre ce piège et d'autres semblables, qui voudraient se mettre entre vous et l'apparition de l'amour du Seigneur, afin que vous sentiez davantage ses demeures avec vous, et les doux effets de celles-ci. Car ces choses ne sont pas pour vous détruire, mais pour vous enseigner la sagesse que le Seigneur est capable, au travers de nombreux exercices et de pénibles épreuves, de vous accorder, et mon âme se réjouira grandement d'en entendre la nouvelle, afin que votre cœur soit délivré de tout ce qui l'accable, et rempli de tout ce qu'il désire à juste titre, en la saison convenable et dans la bonté du Seigneur, à la sage conduite et à la tendre miséricorde duquel je vous confie demeurant. Votre fidèle ami, I.P. Lettre XLV, une supplication pleine d'amour adressée à un persécuteur, à ce William Armoré ainsi nommé. Ami, le sentiment profond de l'état éternel après cette vie a été sur mon cœur depuis mon enfance, et il m'arrive souvent de penser que je dois rendre compte à Dieu, quand je sortirai de ce monde passager, de toutes les choses faites dans le corps, et que j'entrerai dans le repos et la béatitude éternelle, ou dans l'éternel malheur et la misère. Cela me pousse à invoquer le Seigneur chaque jour, pour la grâce et la sagesse de sa part, afin que ma conscience, purifiée par le sang de son Fils, soit gardée sans offense envers lui et envers les hommes. Et véritablement, je ne parle pas en me glorifiant, mais dans la crainte du Seigneur, et dans le sentiment de sa bonté et de sa tendre miséricorde envers moi, mon cœur est préservé dans l'amour et l'innocence envers ceux qui, très injustement, et sans provocation de ma part, m'ont ôté ma liberté pour autant que je sache pour toute ma vie. Ce que vous projetez encore à mon égard, le Seigneur le sait, à qui j'ai remis ma cause, mais j'ai ceci sur le cœur de vous l'exprimer, parce que, lorsque j'étais avec vous, vous avez prononcé des paroles à ce sujet, que nous souhaitions vous voir pendu, ou que nous serions heureux si vous étiez pendu. Dieu qui connaît mon cœur, est témoin que je ne vous souhaite aucun mal, ni à vous ni à votre famille, mais je souhaite que vous évitiez toute chose qui pourrait attirer sur vous sa colère et sa malédiction, soit dans ce monde, soit dans le monde à venir. Et amis, ne provoquez pas le Seigneur en affligeant ceux qui le craignent, mais cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, et cela plaira au Seigneur, et lui sera plus agréable que tous les cultes qu'on puisse lui offrir sans cela. Je vous ai envoyé un petit livre comme témoignage de mon amour, désirant que vous le lisiez avec sérieux. N'essayez pas de me mettre dans une condition telle qu'elle y est rapportée. J'ai eu une plus grande lumière, dans la voie où le Seigneur m'a conduit, que cet homme n'en a eu, et dans cette lumière, j'ai vu que je ne dois pas jurer, mais donner le oui et le non de la vérité, qui vient de la nature chrétienne, et qui est de bien plus grande certitude et assurance que le serment. Car l'homme qui jure peut aisément rompre son serment, mais celui qui s'en tient à la vérité ne peut changer son oui et son non, il demeure dans la vérité, et notre Seigneur et Maître a établi cela au-dessus du serment au sommet, et à la place du serment, et si nous devions nous en écarter et le renier, nous renierions celui qui nous a enseigné de ne pas jurer. En effet, si nous ne l'avions pas appris du Seigneur, et si cela n'était pas exigé de nous par lui, nous jurerions plutôt que de faire autrement, car nous voulons très volontiers donner satisfaction aux hommes, sur ces points particuliers au sujet desquels ils exigent de nous un serment. Ami, Dieu vous a donné une âme immortelle, et il exige de vous la justice envers vos semblables, ainsi que la tempérance et la modération d'esprit, et le sentiment du jugement à venir après cette vie. Vous êtes avancé en âge, il ne vous reste qu'un court moment de votre temps, puis il sera décidé au sujet de votre âme ce qu'elle sera pour toujours, et comment, que des paroles d'amour, de vérité et d'innocence de ma part vous amènent à être sérieux, et à laisser entrer dans votre cœur le sentiment et la crainte de Dieu. Vous avez passé beaucoup de temps à servir l'homme. Oh, passez un peu de temps à servir et à craindre Dieu, il y a quelque chose qui est pur de Dieu, désigné par lui pour exercer la conscience envers lui. Vous avez une telle chose près de vous. Oh, puissiez-vous la connaître et y être unis. car jusque-là, vous ne pourrez jamais servir ni craindre véritablement le Seigneur, mais vous pourriez passer votre temps ici dans un vain apparat, et finalement être jugé et condamné par le Seigneur, et vous coucher dans un chagrin éternel, ce qui, tel est le désir de mon cœur, ne soit pas votre part de la main du Seigneur. Ceci vient d'un homme qui souffre par vous, et qui ne vous a jamais donné le moindre sujet ou provocation pour me traiter ainsi. IP Lettre XLV sur une profession infidèle de la vérité. À Abraham Grinsden, ami, vous avez fait quelques professions de la vérité, et parfois vous êtes venu parmi nous, mais savoir si vous en avez été changé, et si vous avez été fidèle au Seigneur dans ce qui vous a été manifesté, c'est à vous de l'examiner avec diligence. Il n'y a pas de jeu sans danger avec la vérité. Celui qui met la main à la charrue ne doit regarder en arrière vers rien de ce monde, mais il doit prendre sa croix et suivre Christ, dans l'obéissance d'un cœur simple, haïssant père, mère, bien, terre, femme, oui, tout pour l'amour de lui, sinon, il n'est pas digne de lui. La bonne main du Seigneur est avec son peuple, et il le bénit intérieurement et extérieurement, et ceux qui cherchent premièrement le royaume des cieux et sa justice se voient aussi ajouter d'autres choses, mais ceux qui négligent le royaume, et sont infidèles à la vérité cherchant le monde avant elle, la main du Seigneur se tourne contre eux, et ils manquent souvent même de ce qu'ils cherchent et pourquoi ils travaillent dans le monde. La vérité est honorable. Oh, prenez garde de lui attirer un reproche, en prétendant en être, et pourtant n'en étant pas, dans le sens pur et l'obéissance qu'elle engendre et produit dans les cœurs et les vies des fidèles. Mais si certains sont négligés et infidèles à ce dont ils ont été convaincus, et ainsi pour le moment attirent un reproche sur la vérité de Dieu, laquelle en est tout à fait innocente, le Seigneur en son temps effacera ce reproche de sa vérité et de son peuple, mais la douleur et le fardeau retomberont sur eux-mêmes, ce qui leur sera très amé et très lourd, au jour où le Seigneur les visitera de ses justes jugements. Oh, considérez justement et véritablement, il eût mieux valu pour vous n'avoir jamais connu la vérité, ni avoir été dirigé vers le principe et le chemin de la justice, que, après y avoir été dirigé, vous détournez des saints commandements et refusez l'obéissance aux justes. Que le Seigneur vous donne un vrai sentiment et la repentance, si tel est son bon plaisir, et vous relève de l'esprit de ce monde, afin que vous viviez pour lui dans son propre esprit pur. Il est aisé de professer et de faire étalage de la vérité, mais difficile d'y entrer. Il est très difficile pour l'esprit terrestre de se séparer de ce dont il faut se séparer pour elle, avant que l'âme puisse venir la posséder et en jouir. La profession de la vérité, sans la vie et la puissance, n'est qu'un lieu glissant, d'où les hommes peuvent aisément glisser. Non, en effet, si les hommes ne sont pas dans la vie et la puissance, ils peuvent difficilement être gardés de ce qui souillera leur profession. Le Seigneur, qui sonde les cœurs, sait comment il en est pour vous. Oh, considérez vos voies, et craignez devant lui, et prenez garde de prendre son nom en vain, car il ne tiendra pas celui-là pour innocent. En ceci, je suis fidèle et amical envers votre âme, désirant son bien éternel, et qu'elle ne périsse pas à jamais loin de la présence et de la puissance du Seigneur. IP. Lettre XLV, se concentrer sur l'apparence charnelle du Christ, en manquant son apparence spirituelle amie. Dieu insuffla à l'homme le souffle de vie, et l'homme devint ainsi une âme vivante pour Dieu, à qui par la transgression il mourut. Mais Christ, qui était avant Abraham et qui, en temps voulu, a revêtu ce corps préparé par le Père et la résurrection et la vie, lui qui, de la part du Père, souffle de nouveau la vie dans l'homme, et ainsi l'homme revient à la vie. Et l'homme, vivifié par Christ, doit ressusciter d'entre les morts et cheminer avec Christ vers la terre des vivants. Et Christ est tout pour les croyants en qui habite toute plénitude. La circoncision est en lui, le baptême en lui, ainsi que la justice et le repos et la paix aussi. Oui, en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, et il est fait de Dieu pour ceux qui croient en lui, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Or, il est très précieux de ressentir cela, mais il est de peu de valeur de l'imaginer ou d'en concevoir des perceptions. Car la fin des paroles est de conduire les hommes à la réalité. Mais les scribes et les pharisiens, par leurs suppositions au sujet des paroles données par l'Esprit, ont manqué la réalité, quoiqu'ils pensassent ne pas la manquer, mais être bénis dans la connaissance de la loi, et que ceux qui ne connaissaient pas la loi étaient maudits. Et le même esprit est vivant chez beaucoup qui professent aujourd'hui la vérité, et qui, par leur compréhension des paroles de l'Écriture, sont tenus éloignés de la réalité dont témoignent les Écritures. Pourquoi Christ est-il venu dans la chair et a-t-il souffert, sinon pour unir et réconcilier avec Dieu? Et qu'est-ce que la manière antichrétienne de s'égarer loin de la vérité, sinon de vanter professer l'apparition de Christ dans la chair, ses souffrances, sa résurrection, son ascension, etc., dans cet esprit où la véritable union et la réconciliation ne sont pas attestées? Si nous recevons la lumière et marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, alors nous avons part à la mort et à l'expiation de son Fils, et son sang purifie de l'injustice, mais pas autrement. Oh, que tous ceux qui désirent vraiment le salut puissent connaître ici le chemin et recevoir de Dieu ce qui purifie et maintient pur. Amen. IP. Lettre X-Lix ce que j'ai, chaque jour la lumière et le Fils de Dieu dans mon cœur. Cher ami, que je me rappelle souvent avec amour et attendrissement de cœur, désirant de Dieu que vous puissiez jouir, dans ce monde, de ce qu'il juge bon pour vous de sa présence et de sa vie pure, et que votre âme puisse, après cette vie, s'asseoir dans le repos et la paix avec lui pour toujours. J'ai reçu de vous un écrit de Richard Baxter, envoyé, je crois, par amour, et par amour, je me sens poussé à vous en retourner le sentiment que j'en ai. Il me semble très utile et plein de poids, dans la mesure où il va, mais en vérité, il y a en lui un grand défaut, celui de ne pas diriger les pécheurs vers ce principe de vie et de puissance dans lequel et par lequel ils peuvent faire ce qu'il les exhorte à faire. Car comment peuvent-ils parvenir à une véritable sensibilité ou repentance, ou s'engager dans l'alliance avec Dieu par Christ, avant de connaître et de recevoir quelque chose de Dieu, en quoi cela puisse se faire? Ô mon cher ami, lui et vous, et tous ceux qui, en quelque mesure, se détournent de ce monde et désirent réellement la vie éternelle, puissent connaître l'instruction de la vie, et sentir ce venant de Dieu en quoi il est connu, aimé et auquel on s'unit dans l'Alliance, afin qu'il y ait un commencement pur, une croissance pure, une marche vers la perfection, et non des notions sur des choses établies dans l'entendement terrestre, qui pourrissent et souillent aisément, mais une vie pure ressentie et goûtée dans le cœur qui est sans souillure, et qui n'a jamais vu ni ne verra jamais. Je n'ai pas la liberté d'écrire beaucoup de mots, mais mon amour respire pour vous, et ma vie désire la communion avec vous, s'il plaît à mon Dieu, en ce qui est pur de lui et le demeurera pour toujours. Et quoi que les hommes puissent dire ou penser de moi, je n'ai maintenant pas d'autre religion que celle que j'avais dès le commencement. Seulement, une conduite plus claire vers ce principe de vie et une direction plus claire par lui, en est par lequel il plut alors au Seigneur de me vivifier. Et c'est ce dont j'ai chaque jour l'expérience dans mon cœur, que ce n'est rien de moins que la lumière du jour éternel dans laquelle l'homme renouvelé doit marcher, et rien de moins que la vie du Fils, que Dieu donna en rançon pour les pécheurs, qui peut vivifier l'homme pour qu'il fasse ainsi. Et nul sinon Christ, par sa vie révélée dans l'âme et par le sang versé là pour la laver, ne peut sauver le pauvre pécheur du péché, de la colère et de la misère. Et mon espérance n'est pas en ce que j'ai fait ou puis faire, mais en ce qui. Voilà le compte rendu de mon amour pour vous, tiré de moi en ce temps par l'expression extérieure du vôtre en envoyant cet écrit, moi qui demeure et qui, depuis notre première connaissance, ai toujours été un ami et un aimant de vous. IP. Chalfont de Pitt, 19 du 6e mois, 1665. Lettre L. Principe de base conduisant à la possession de la plénitude de Christ ami, le Seigneur Dieu, sur qui j'attends, et que j'adore en esprit et en vérité, et qu'il m'ait un plaisir de servir et d'obéir, a à diverses reprises engagé mon esprit à vous écrire dans un amour vrai et tendre. Il y a aussi, en ce moment, sur mon cœur quelque chose concernant l'état de l'Évangile en général, et en particulier, concernant l'état et la condition de ceux qui connaissent et servent véritablement le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Saints. L'état de l'Évangile en général est un état de rédemption et de délivrance des ennemis de l'âme, rédemption dont toute âme participe selon sa foi dans la vérité et son obéissance à la vérité, et selon sa croissance en celui qui est vrai. Les petits enfants en Christ, les tout-petits, leurs péchés leur sont pardonnés à cause de son nom. Les jeunes gens ont combattu vaillamment et ont vaincu le malin. Les vieillards ou anciens dans la vérité ont l'expérience de la sagesse et de la connaissance céleste de celui qui est dès le commencement. Or, il y a certaines choses qui appartiennent à tous en général, ou qui sont communes à tous, et quelque chose qui est propre à chaque membre en particulier. Ces choses qui appartiennent à tous en général sont très nombreuses, mais je n'ai à cœur de vous mentionner en ce moment que ces quelques-unes que l'apôtre énumère ensemble en F4-4-6, lesquelles, en vérité, comprennent beaucoup. Et celui qui les connaît et y participe a aussi part à tout le reste et en tire profit. Premièrement, il dit, « Il y a un seul corps, il y a une seule tête, et cette seule tête un seul corps, dont tous ceux qui vivent véritablement sont membres. Deuxièmement, il y a un seul esprit, qui vivifie, maintient en vie, donne la nourriture, ordonne, console, défend ce seul corps. Troisièmement, il y a une seule espérance de leur appel, car tous sont appelés du pays des ténèbres, et hors de l'ombre et du pouvoir de la mort, à marcher vers un héritage de lumière et de vie éternelle. Quatrièmement, il y a un seul Seigneur, qui a puissance sur ce seul corps et en possède la règle et la domination, à qui tous doivent rendre compte chaque jour de ce qu'ils font, et, au dernier jour, de ce qui aura été fait dans leur corps de chair. Cinquièmement, il y a une seule foi, par laquelle ils peuvent croire en la tête et en tirer la vertu, foi qui est un don unique de Dieu, et qui jaillit de la racine de vie en son Fils, et qui est d'une autre nature que cette capacité naturelle de croire que l'on trouve chez les hommes. Sixièmement, il y a un seul baptême, par le seul Esprit, par lequel tous les vrais membres sont baptisés dans l'unique corps vivant et viennent à participer à sa vertu, à ses bienfaits et à ses privilèges. Enfin, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui les a tous engendrés, et qui doit être adoré par eux tous comme leur Seigneur et leur Dieu, lui étant attesté et expérimenté par eux comme étant au-dessus de tous, et par tous, et en eux tous. Tel est l'état général, l'état évangélique, dans lequel Christ donne à ses brebis, aux enfants de son Père, l'entrée, et c'est une chose bénie que de connaître et d'expérimenter cet état, c'est-à-dire d'y avoir un intérêt réel et de participer réellement à ces choses. L'état de chacun en particulier est celui-ci. À chacun en particulier est donnée la grâce, selon la mesure du don de Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, car la plénitude est à lui. Oui, il est la plénitude, et de sa plénitude il donne une mesure à chaque membre en particulier. Non pas à tous une portion égale, mais à chacun quelque chose, selon qu'il lui plaît de distribuer et de proportionner le don de sa grâce, car cela lui appartient en propre, et il peut dispenser ses dons et ses talents célestes comme il lui plaît, et selon l'état de chacun dans le corps, et selon leur œuvre et leur service, ainsi proportionne-t-il à chacun le don de sa grâce. Or c'est là ce que chacun doit considérer, la grâce qui lui est donnée, son propre don de Christ, y croître et être ce qu'il est en cela. Celui qui n'a rien de cette grâce n'est pas de Christ, et celui qui a reçu la grâce, le don gratuit, doit s'en tenir à la mesure qui lui en a été donnée, en tout ce qu'il était fait. Or, vous dirai-je, sentez mon amour dans ces lignes. Ou ne devrais-je pas plutôt dire, sentez l'amour de mon Dieu, qui vous visite encore une fois, et ne voudrait pas que vous périssiez en résistant à son Saint-Esprit, et en méprisant la grâce et la vérité qui viennent par Jésus-Christ, qui sont maintenant puissamment révélées dans beaucoup de cœurs. Béni soit celui qui a visité son peuple avec la corne du salut. I.P. Lettre suivante. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.